At the Bank of Antandek, mortgages are on the menu.
I was in the chippy last night and it hit me.
Go on.
We should give all our new mortgage customers £1,000 of spuds.
Potatoes?
Yeah, jackets, roasties, dolphin wars. I mean, what's not to love?
Hey, yeah, we could call it
Mashback. Genius.
Meanwhile, at Santander, they're giving their customers £1,000 cash back on selected first-time buyer mortgages. See what's possible at Santander.
Lending subject to status and criteria. Cashback given on completion and repayable if mortgage closed within 2 years. Offer can be withdrawn. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we go to fish. Hein?
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. L'after est là comme tous les soirs jusqu'à minuit. Bienvenue à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News. L'after, la seule émission radio en France en direct, 7 jours sur 7. Casting du soir, bonsoir. On va la refaire. Salut Jonathan Macquarin.
Salut les gars.
Membre éminent de l'after de l'élégance, à tes côtés bien sûr. Il n'y a même plus qu'hier d'ailleurs, je crois.
Oui.
Et de Vico Bragnac. Tu vas bien.
Le seul qui reste qui est à sa taille surtout.
C'est pour ça peut-être. Messieurs, au sommaire ce soir le débrief des matchs de Ligue 1. 4 matchs ce soir, 5 buts. 6 buts, dont 5 sur un seul match, Strasbourg.
C'était d'une pauvreté ce soir.
Pauvreté, j'ai un œil sur la Bundesliga, 22 buts en 5 matchs hein, ce soir. Voilà. On va en parler de ça parce que ça commence à faire beaucoup, ça commence à être long là, les matchs de Ligue 1 du samedi soir. Au sommaire également, la petite victoire du Paris Saint-Germain, 2 buts à 1 à Brest. Qu'avez-vous pensé de la première titularisation de Cavani depuis 2 mois? Appelez-nous au 32-16, supporters parisiens et supporters brestois aussi. Les drôles de dames au rendez-vous ce soir de l'after. Paulo Breitner pour Bayern Dortmund, le Bayern qui a balayé le Borussia. Julien Laurence avant Liverpool City demain et Fred Hermel qui doit être en sueur, en transe après le nouveau doublé de Karim Benzema avec son Real. Et un quiz spécial, appelez-nous, candidatez, auditeur de l'after, quiz spécial Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais. En fin d'after, on a préparé ça à merveille. Arthur Robert a bossé ça. C'est aux oignons, messieurs.
Pour une fin d'after. Pour une fois qu'il bosse.
Le mec, il arrive à 16h, il se met à bosser à 21h.
Il bosse et il produit RMC Fighter Club, évidemment qu'il bosse.
Ok, voilà, ça c'est fait. Le hashtag RMC Live, bien sûr, le 32-16 est ouvert. Appelez-nous, supporters lillois, supporters parisiens, supporters angevins aussi. Allons-y, débriefons, supporters monégasques, la soirée de Ligue 1. Rapide rappel des résultats, quand même, messieurs, de la soirée. La victoire donc de Paris demain face à Brest. Di Maria Icardi contre un but de Grancy à Monaco, bas Dijon, 1-0. Golovin, Strasbourg, Banim, 4-1, Ajorc, Motiba, Liénard, Motiba pour un doublé, Romain Philippoto pour la réduction de l'écart, 0-0 Lille-Metz et Reims, Angers. Messieurs, comme après un match de Ligue 1, l'essentiel, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Jonathan.
Écoute, premier point, c'est que Monaco respire. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être perfectibles, qui sont perfectibles et qui peuvent être améliorées dans le jeu, notamment défensivement. Mais force est de constater que voilà, là, ils commencent à être sur une série de victoires et d'accumulation de points qui est intéressante. Donc, on les donnait pas là il y a quelques mois. Donc, bravo à eux. Le deuxième point, c'est Strasbourg qui refait surface, comme on l'avait prévu. Ça leur a fait beaucoup de mal cette phase de qualification pour la Ligue Europa. Ils se sont cramés, et ils ont épuisé leurs ressources mentales et physiques. Et puis, on avait dit qu'on les reverrait aller vers l'hiver après la trêve, finalement, est-ce que ça serait pas un petit peu plus tôt que prévu? Et le troisième point, j'espère qu'on en débattra, c'est que je pense que Thomas Tuchel a une fois de plus tout faux dans ses propos. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'il a dit après le match, comme lorsqu'il a dit à ses...
Il s'est dit satisfait de la prestation du PSG.
Il s'est dit satisfait et il avait dit à ses joueurs qu'il fallait pas appuyer sur l'accélérateur à tous les matchs. Je pense que c'est une très mauvaise façon de faire ta saison.
Ludo.
Je dirais mon premier point, Thomas Tuchel alias Gérard Majax. Regardez le joli foulard à droite, la vérité est à gauche. J'ai envie de dire chapeau Brest et à Dalloglio qui a quand même eu le panache de faire jouer son équipe. J'ai pas vu une seule fois où Brest a balancé le ballon. Comme Dijon, la partie de derrière à chaque fois. Preuve en est l'égalisation qui est sublime. Donc bravo à eux. Ouais. Et mon troisième point, c'est Emery sur un siège éjectable. puisque la défaite d'Arsenal à Leicester va, à mon avis, peser lourd.
Leicester très fort, hein, ouais. Début de saison impressionnant. Leicester, messieurs, avant de développer vos trois points, un rapide tour des directs. France-Serbie, foot féminin, qualification de l'Euro, Anthony Reich.
Et de 4 buts pour l'équipe de France face à la Serbie. Cette fois-ci, c'est Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante du Paris Saint-Germain, qui a trouvé la faille dans la défense serbe sur un bon coup franc frappé de la droite vers la gauche de par Amel Majri, l'attaquante parisienne. S'y reprend deux fois et inscrit le quatrième but des Bleus après 51 minutes de jeu ici à Bordeaux.
Voilà, on y va, parce que plus de buts de l'équipe de France que sur la soirée de Ligue 1. Toulouse-Clermont, le rugby, 9e journée, Nico Palorsi.
Il reste 23 minutes, salut l'after, salut à tous, et 24-8 hein, pour le stade toulousain qui a fait la différence dans les 20 premières minutes avec 3 essais inscrits par des internationaux français qui sont rentrés de la Coupe du Monde il y a deux semaines à peine. Essai de Guitoun, Médard et Ntamack. Là, les Toulousains gèrent tranquillement leur avance, ils vont essayer d'aller chercher ce bonus offensif et à l'instant ils ont une pénalité face au perche qui devrait encore un petit peu accentuer leur avance. 58 minutes de jeu bientôt, 24-8 pour Toulouse.
Monsieur Hameau également sur le Barça au Camp Nou face au Celta Vigo, 3-1, 3 buts de
Messi,
triplé Lionel Messi, voilà.
Après la victoire de Leeds,
49 minutes de jeu. Leeds a gagné effectivement.
Ouais, troisième toujours.
Ouais, mais attention, l'équipe de Sabri Lamouchi également.
Exactement.
Nottingham Forest. Messieurs, 32-16, appelez-nous supporters monégasques, lillois, pour l'after, bien sûr, angevin aussi, et bien sûr, parisiens. On redébriefera la victoire du PSG face à Brest en fin d'après-midi. Commençons par Monaco, messieurs. Monaco-Dijon, victoire 1-0, victoire minimaliste de l'AS Monaco, Alexandre Golovin à la 42e minute de jeu. Jonathan, on a entendu déjà Ludo, mais on va en parler avec toi Ludo également. Monaco 8e de Ligue 1 désormais, 5 victoires, 3 nuls, 5 défaites, ça va quand même beaucoup mieux. 5 victoires sur les 7 derniers matchs, 18 points au compteur, 8e place. Jonathan, la tendance se confirme, Monaco en tout cas redevient efficace.
Alors déjà, ils bénéficient du fait que la Ligue 1 est particulièrement homogène cette année. Tu fais une série de victoires, 2-3 victoires, et tu te retrouves à rejouer l'Europe alors qu'ils étaient
morts. Oui, mais la série est bonne quand même, 5 victoires.
La série est bonne. Après, moi, ce dont j'aimerais qu'on parle, c'est le contenu. Alors, dans le contenu, évidemment, il y a une chose qui est hyper prégnante, c'est que cette équipe, t'as l'impression quand t'es en train d'attaquer, ils peuvent marquer une palanquée de buts, même si ce soir c'est pas le cas, mais ils ont tellement de talent devant, que ce soit leur duo qui est vraiment fantastique, t'as des milieux de terrain qui sont bons. Mais le problème, c'est toujours le même, hein, c'est que défensivement, il y a toujours pas d'équilibre. Je pense qu'il est toujours en train de chercher un petit peu sa formule au milieu de terrain. Là, on a vu ce soir avec Silva, Henrich et Golovin. Bon, c'était pas trop mal, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et le plus gros chantier de Monaco, il est là. Alors, je pense pas que ça passera par encore une fois sortir chez qui en hiver et aller chercher des joueurs. Je pense qu'il a suffisamment d'éléments sur le banc pour faire un milieu de terrain cohérent. Mais Monaco peut redevenir un prétendant à l'Europe.
Monaco, c'est simple, hein, avec 18 points, Monaco n'est plus qu'à 1 point du podium.
Exactement.
Occupé par Lille, 3e place, et à 3 points d'Angers, qui en a 21. Ludo.
Monaco revient dans la première moitié de tableau, donc c'est forcément à souligner. Après, pardon, mais je ne peux m'empêcher de penser que cette équipe reste quand même particulièrement fragile. Ouais. Elle a été mise à mal beaucoup de fois par Dijon ce soir. Ils auraient pu l'emporter avec peut-être un peu plus d'écart, mais ils auraient très bien pu se faire rejoindre, voire se faire battre. Le problème que j'ai avec l'AS Monaco, c'est que quand le ballon est dans le camp adverse, j'ai l'impression qu'ils peuvent marquer à tout moment. Et quand le ballon est dans leur camp, ils peuvent encaisser à tout moment.
C'est ce que je disais.
Je pense pas qu'en ayant un équilibre aussi fragile, tu puisses prétendre à mieux. Alors ça passe pour l'instant contre des équipes qui sont à leur portée. Je suis pas sûr que ça puisse passer quand les choses vont se compliquer.
Mais je suis
d'accord avec toi sur le fait que, forcément, sur le plan des résultats, il y a beaucoup de mieux. Le retour de Slimani a été d'une grande aide, sur le plan offensif par sa spontanéité.
Il en a pu marquer, deux reprises d'ailleurs.
Par sa subtilité technique, notamment sur le but où il fait une remise, une touche à Golovin.
7 buts, 6 passes D, pour lui cette saison.
Donc voilà, c'est tout le problème de l'AS Monaco. Je ne sais pas comment cette histoire peut finir, non, mais en tout cas, je ne suis toujours pas rassuré.
C'est 5 buts, 8 passes décisives. Pardon.
Ludo, avec les joueurs que tu as sur le banc, notamment au milieu de terrain, Bakayoko et compagnie, là, tu ne penses pas qu'il y a mieux à faire pour créer ton milieu de terrain, pour essayer de recréer un équilibre? Parce que je pense que les défenseurs, ils sont foncièrement pas si mauvais que ça. Bon, alors, Glick, ok, il est à la rue, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, Maripán, t'es dit, hein, je l'ai vu beaucoup jouer avec la sélection, c'est son frère pour l'instant.
Jo, on a regardé franchement le match. on ne peut pas regarder tous les matchs à fond parce qu'on regarde 5 matchs en même temps en multiplex. Le peu qu'on a regardé, honnêtement, à chaque fois, enfin, beaucoup de fois, Monaco, sa défense, elle est prise à défaut.
Oui, mais ça, alors, je suis d'accord.
Il y a un gros quart d'heure
On en parlait. Tu peux pas tout le temps mettre la responsabilité aussi sur la défense. C'est-à-dire qu'on parle tout le temps de Glick.
Moi, je te parle du milieu, surtout. Hein.
Voilà, c'est aussi ça. C'est que s'ils font autant de fautes défensives, c'est peut-être aussi qu'ils sont beaucoup sollicités défensivement.
On est d'accord qu'il y a quelque chose de rapide.
Ils sont abandonnés peut-être.
Parce que mettre un peu Jelson Martin piston dans une défense à 5, je pense pas que ce soit lui rendre service à lui, ni rendre service à l'équilibre de ton équipe. Et quand tu vois la liste de joueurs qui est, voilà, il a une palanquée de joueurs, il peut faire 3 équipes, je persiste à penser qu'il y a de quoi faire beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'il en est capable, Leonardo Jardim?
Par Aguilar, Balotelli, il est pas fan pour l'instant, en tout cas.
Est-ce que Leonardo Jardim est capable de trouver les solutions? Est-ce qu'il est pas un peu usé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a le potentiel pour faire beaucoup mieux et pour jouer le podium avec le groupe qu'il a.
Oui, il n'y a pas de Coupe d'Europe à jouer, il n'y a que des coupes nationales. Et effectivement, le championnat, Monaco réintègre.
En tout cas, ils reviennent, ils sont là.
Et oui, ils sont là.
Il fallait avoir le mérite de le faire et avoir aussi le caractère de le faire. Donc voilà, ça on va le noter et le souligner.
C'est la troisième équipe de Ligue 1 sur les 7 dernières journées avec Saint-Etienne, Monaco et Paris. Forcément, Monaco revient à un rang plus conforme à son statut 8e de Ligue 1 désormais. Messieurs, avant de parler de Lille dans un instant, j'aimerais qu'on parle quand même de la Ligue 1. Pour moi, c'est un thème ça, parce que ça réagit énormément sur l'hashtag RMC Live et sur l'application Direct Studio. Pourquoi ça va pas, les gars? Pourquoi on est à 5 buts samedi soir, 6 buts samedi soir? Pourquoi je regarde la Bundesliga là, 22 buts en 5 matchs? Est-ce que les défenses sont plus poreuses en Bundesliga et qu'on est trop solide en Ligue 1? Est-ce que c'est nul la Ligue 1? Je vous pose la question franchement.
Je pense qu'il y a eu...
Ça devient...
Vas-y Ludo, vas-y.
Je sais pas, je me dis que dans le sport de haut niveau, comme dans la vie, le plus dur c'est de confirmer tout le temps. J'ai l'impression que parfois, certaines équipes qui font des choses correctes ou très bien pendant 6 mois, 1 an, sont incapables de renouveler ces performances-là sur la durée. Alors, je parle des coachs, je parle des joueurs, je parle de tout ça. En fait, on est dans l'incapacité à chaque fois d'être régulier dans la performance. C'est-à-dire qu'on s'enflamme très vite. Bon, c'est français, hein, pour des joueurs qui font des trucs, pendant 1 mois, 2 mois, et puis on a tendance à les assassiner 2 mois après. C'est très français. Mais, je sais pas, j'ai du mal à trouver de la régularité dans les performances, et notamment je vais cibler notamment les joueurs qui parfois sont clairement pas à la hauteur. J'ai envie de mettre en avant Brest parce qu'ils font un super match. On a mis en avant Angers, Reims, ces équipes-là. Par contre, dès que c'est pas une équipe qui est meilleure qu'eux, où ils sont pas dans cette peau de favoris.
Mais pourquoi?
Angers-Reims, c'est le soir, ils passent à côté.
La question, c'est pourquoi? C'est quoi? C'est à cause d'entraîneur? Trop frileux?
Un problème de motivation, tout simplement. C'est-à-dire que quand les petits se jouent entre eux, ils sont pas motivés. Quand le PSG joue plus petit, ils sont pas motivés.
Faut aller plus loin que ça. Non, mais.
Il faudrait presque, à chaque fois que tu sois challenger, pour aller chercher ce supplément d'âme.
Faut aller plus loin que ça. Le problème du football français.
Appelez-nous 32-16.
Le foot français, pour moi, c'est pas forcément les entraîneurs, parce que sur les bancs, il y a des entraîneurs qui sont.
Ah, il y a ça quand même, Jonathan.
Mais
le pense à prendre, à ne pas prendre de but avant de marquer.
Sur certains clubs, mais le problème principal, à mon sens, vient des cellules de recrutement. Quand tu vois la qualité des joueurs qui composent les effectifs de certaines équipes de Ligue 1, et quand tu vois les joueurs qui composent certaines équipes d'autres championnats européens qui n'ont pas des œillères lorsqu'il s'agit d'aller chercher des joueurs dans des pays considérés exotiques hors d'Europe, eh ben tu vois clairement où est le point de divergence. Alors, on a des clubs de Ligue 1 qui, certes, n'ont pas des budgets pharaoniques. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça ne doit pas les empêcher de travailler bien et d'aller voir ailleurs. On va prendre l'exemple d'Amiens. Amiens, force est de constater que c'est une équipe qui joue bien quand elle le veut, quand elle le peut, mais c'est aussi une équipe qui est capable d'aller chercher, par exemple, au dernier mercato, un Kraft dans un championnat nordique, où je crois qu'il était dans un championnat nordique, pour que personne connaissait et qu'ils ont revendu une somme à 2 chiffres en Angleterre.
Mais pour te dire, mon propos, c'est que j'en veux autant au PSG sur le match de Brest de ce soir que j'en veux à Angers ou à Reims sur leur confrontation directe. C'est-à-dire que ces équipes-là, elles n'arrivent pas à se sublimer quand elles sont pas dans la peau du challenger. Tu vois, il faudrait un peu plus de confiance, plus d'ambition.
Tu l'as dit tout à l'heure, c'est la culture française, voilà, c'est un peu le panache de l'outsider, tu vois.
Ou Angers, à chaque fois qu'ils ont une équipe qui est censée être un peu plus mieux classée ou un peu plus de notoriété que,
mais
ils
oui,
font
mais
à chaque fois des matchs.
Moi, je t'ai dit,
ça n'a pas toujours été le cas.
Je t'ai dit, alors juste, j'ai dit une société cette saison. Kraft, ils vont le chercher en Italie, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des équipes qui sont trop peu nombreuses, qui ont des très bonnes idées dans leur cellule de recrutement. À un moment, on s'extasiait tous un petit peu sur Nice, époque Puel, époque Favre. Mais à ce moment-là, Nice, c'était une équipe qui était capable d'aller chercher au Portugal Jean-Michel Seri pour 500 000 euros. Tu vois? C'est une équipe qui avait de l'imagination dans ses recrutements. Et je trouve que le recrutement est un petit peu trop franco-français. On veut pas prendre de risques, on veut prendre des bons éléments de Ligue 2. Mais merde, on joue au foot aussi ailleurs qu'en Europe.
Il y a une chose juste qui...
Benoît arrive, Ludo.
Juste une chose, il y a une chose qui nivelle tout le monde. C'est aujourd'hui, on se prépare physiquement quasiment de la même façon pour tout le monde. Donc ça veut dire que le niveau se resserre forcément. Et j'en veux aux équipes aussi, qui devraient... Oui, mais j'en veux justement à nos équipes
devrait écraser la Ligue 1,
d'être en panne d'idées tactiques, en panne d'idées techniques, en manque de création et en manque de plein de choses.
Ouais, mais je pense qu'après, quand on a, moi pour moi la cause c'est ça, c'est les cellules de recrutement, la qualité des joueurs. Mais je pense qu'après, une fois que cette espèce de médiocrité ou de moyennitude latente s'est généralisée, ça contamine un petit peu tout le monde. C'est ça le problème.
La qualité des joueurs. Regarde l'effectif de Monaco. Regarde l'effectif de Paris. Regarde l'effectif de Lyon. Putain, de Lyon. On manque pas de qualité dans ce championnat.
C'est exactement ce que je t'ai dit. Moi, je t'ai dit que je pense que le problème des cellules de recrutement vient pour les équipes moyennes et qu'après, le fait que ça soit un peu morne, un petit peu moribond, ça contamine tout le monde. Mais je suis pas d'accord. Par exemple, une équipe comme l'OM ou une équipe comme l'Olympique Lyonnais, avec le budget qui est leur sur le marché des transferts, ils devraient être capables de faire preuve d'un petit peu plus d'inventivité, d'imagination et d'aligner des effectifs qui soient meilleurs.
Je crois qu'il y a plusieurs facteurs, mais bon, on en reparle encore dans l'after, bien sûr. Benoît nous appelle au 32-16, il arrive. D'abord, le foot féminin, France-Serbie, Anthony Reich, qualif pour l'Euro.
Et 2-5 pour l'équipe de France avec un nouveau mouvement collectif bien initié sur le côté droit par la capitaine du soir Marion Thauran qui glisse le ballon à Gaëtan Tiné qui centre en retrait parfaitement pour Amel Majri qui inscrit donc son troisième but ce soir. La milieu lyonnaise 5-0 pour l'équipe de France face à la Serbie après 64 minutes de jeu.
Merci Anthony. Benoît nous appelle au 32-16, supporter marseillais. Salut Benoît.
Salut à tous, salut l'after.
Salut Benoît. Bienvenue dans l'after. Jonathan McCarty, Ludo Bragnac, t'écoute bien sûr. Ton avis sur le, je sais pas, est-ce que tu regardes les matchs à la télé samedi soir? Est-ce que tu écoutes la radio annoncée?
Oui, bah d'ailleurs, je fais comme vous, hein, je regarde le multiplex, j'essaye de suivre un petit peu tous les matchs, bien que je sois supporter de l'OM et que ce soir mon équipe ne jouait pas. Mais alors pour développer un petit peu sur votre débat, moi il y a déjà une première chose que je trouve assez flagrante. Depuis le début de la saison, on a toujours cette impression de peur. C'est-à-dire qu'on effectivement, ce que vous dites est, je pense, est assez clair. On sent que les équipes cherchent à défendre, mais pourtant on a quand même eu des week-ends avec beaucoup plus de buts. Tu soulignais la faible moyenne du soir par rapport à d'autres journées, effectivement, il y a beaucoup moins de buts. Maintenant, est-ce que c'est pas une peur des entraîneurs français à chaque fois de se prendre des tôles s'ils ouvrent un peu trop le jeu?
Je suis d'accord.
Et finalement, qu'on retombe un peu dans ces travers-là, vous voyez?
Moi, je me demande également, pour aller un peu plus loin encore, Benoît, vous savez, la saison prochaine, jackpot, la cagnotte.
Il y a de ça aussi. Et ça rejoint ce que vous dites, la peur.
1 milliard par saison.
La peur.
Est-ce que
la raison là-dessus, la peur de descendre.
Il faut survivre en Ligue 1 pour prendre le pactole. Est-ce qu'il n'y a pas ça?
Mais t'as raison, Nico.
Il y a beaucoup d'équipes qui t'ont prouvé le contraire la saison dernière, qui, et notamment Amiens, qui à un moment donné était dans une posture plutôt de jouer avec un attaquant ou deux. Et à un moment donné, il est passé avec 4 attaquants. Et ben ma foi, il a quand même pris beaucoup plus de points à ce moment-là.
Mais c'est intéressant que tu cites Amiens. Parce qu'Amiens reflète les deux points qui, à mon avis, expliquent le niveau. C'est un entraîneur ambitieux, compétent, imaginatif, et une cellule de recrutement qui est performante et qui a de l'imagination. Quant à ces deux facteurs, avec des moyens qui sont restreints pour un club comme Amiens, ça donne une équipe qui est enthousiasmante, à défaut d'être un coup sûr quand tu veux faire ta grille de l'autofoot.
Benoît, t'en veux à ton OM également? Vas-y,
oui,
Benoît. Vas-y.
Oui, je voulais rajouter un petit truc. Jonathan, tu soulignais tout à l'heure le manque d'inventivité, de créativité, on va dire, des cellules de recrutement, mais tu as l'exemple avec Lyon. Lyon qui se débarrasse de Silvinho et dans la foulée qui tout de suite prend Rudy Garcia qui est pas connu pour faire des mercatos inventifs. Alors certes, il est pas tout seul,
il aura déjà, pas la main là,
ça souligne un petit manque d'ambition, je pense, hein.
Ouais, mais je pense pas qu'il aura la main sur le mercato. Je pense que ils ont su ce qui s'est passé, c'est sûr. Et puis après, par contre, ce que tu dis sur Garcia est intéressant, c'est parce qu'encore une fois, c'est le manque de créativité aussi, pas que dans les cellules de recrutement, mais aussi dans le choix des entraîneurs, même si ça un petit peu ouvert aux coachs étrangers depuis les 4-5 dernières années. Mais je trouve qu'on la Ligue 1 bénéficierait d'un apport d'entraîneurs étrangers de qualité. Alors faut pas prendre étranger pour prendre étranger. On va se rappeler de ce qui s'est passé avec Oscar Garcia à l'AS Saint-Etienne. Mais je pense qu'il faudrait un petit peu enlever ses œillères et voir qu'on joue au foot.
Moi, je vois dans la Ligue 1, Paulo Souza propose du jeu avec Bordeaux, Lucas Elsner propose avec Amiens.
Exactement.
On a deux clubs qui ont eu des idées, en tout cas, pour venir des entraîneurs.
Par exemple Gajardo, pourquoi tu vas pas chercher Gajardo?
Mais c'est fini,
quand t'es Lyon.
Trop là maintenant.
Quand t'es Lyon, t'es Lyon. Ah non, on tu peux essayer d'aller chercher Gajardo.
Ouais, compliqué.
Et tu vois, moi, j'aurais voulu vous poser une question à tous les trois, d'ailleurs. Hein. Ça marche pour tous les trois. Demain, il y a quand même un OM-OL. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un niveau faible sur ce match-là, parce que déjà les deux équipes montrent pas grand-chose depuis le début de la saison, mais quand on voit un PSG qui est assez à l'image de notre Ligue 1, hein, parce que le match qui était cet après-midi était assez faible aussi de leur part, est-ce que vous n'avez pas peur d'une tête d'affiche demain qui va être catastrophique?
Ça peut, ouais.
Non, je pense pas. En tout cas, il y aura
Il faut voir ce qu'on attend
du match de demain. Clairement, pour l'instant, ça met sur le, on le met sur le plan du match d'homme, avec tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, tout ce qui se raconte. Clairement, demain, va pas falloir se défiler dans les duels, parce que d'un côté comme de l'autre, vu ce que ça a dit, ça devrait envoyer sur le plan physique, et c'est ce qui me paraît le minimum. Alors à ce moment-là, il y aura peut-être une équipe qui prendra le pas tactiquement ou techniquement sur l'autre, et c'est ce qu'on a envie de voir, c'est ce qui devrait déboucher en tout cas sur un match plaisant à voir. Et tous les Marseille, quasiment tous les Marseille-Lyon, les Marseille-Lyon, ou Lyon-Marseille,
Je pense que ça ressemblera beaucoup au match, je sais plus l'année, mais le retour de Valbuena avec la potence. Ouais. Ça avait été une guerre. Ouais. Rappelez le rouge d'Alessandrini.
2014, je crois.
Ouais, c'est ça. Karim Rekic qui envoie Valbuena sur coup d'épaule, valser à 10 mètres. C'était pas un très beau match, mais c'était un match qu'on avait eu plaisir à suivre parce qu'il y avait de l'intensité, il y avait de l'enjeu, il y avait une histoire.
À défaut de faire des vraies passes, les gars, du spectacle.
Non, mais si tu veux, on est tous conscients que dans notre championnat, on peut pas voir que des matchs extraordinaires tous les week-ends avec on en est parfaitement conscient. Mais c'est vrai que des fois, tu peux déplacer le curseur sur d'autres choses. Et demain, on s'attend à un match d'hommes. J'espère au moins qu'on verra un match d'hommes demain avec de l'intensité, de l'impact. Deux équipes qui n'ont pas envie de renoncer, qui ont envie de prendre l'avantage psychologiquement et physiquement sur l'autre. Mais ça peut être plaisant à regarder à partir du moment comme le match a été amorcé. Je veux dire, tu peux prendre du plaisir. On prend pas que du plaisir en regardant le FC Barcelone. On peut prendre du plaisir ailleurs, mais sans problème.
Juste un tout petit
truc. Très court.
Là où il a raison, Ludo, c'est qu'en fait, ce qu'on demande, c'est pas forcément du jeu à la FC Barcelone, mais c'est que c'est des équipes avec une personnalité affirmée.
Oui,
affirmée.
Voilà. Oui,
c'est tout. Regarde, moi, j'adore l'Atlético.
Les directs.
Par exemple.
Les directs, l'Euro, qualification pour l'Euro, France-Serbie, Anthony Reich.
70e minute de jeu ici à Bordeaux entre l'équipe de France et la Serbie, et les Bleus qui mènent largement 5-0 grâce à un triplé d'Amel Majri.
Toulouse-Clermont, le rugby, Nico Pollorci.
Il reste 7 minutes et l'essai du bonus pour les Toulousains qui mènent désormais 34-8 face à Clermont. C'était un choc du championnat, ça tourne à la correction. Un essai d'avant, c'est Julien Marchand, le talonneur remplaçant qui est venu pilonner la défense clermontoise. Il reste 8 minutes pour Toulouse qui doit gérer cet avantage. 34-8.
Merci messieurs. Pourquoi la Ligue 1 est nulle? Beaucoup de réactions sur l'hashtag RMC Live, en tout cas à l'apparence d'un championnat nul. Et ce direct studio, j'en ai quelques-unes dans un instant. On revient avec Jonathan McCarty, Ludovic Obraniak, bien sûr. 22h26, c'est l'after.
RMC, l'After Foot, Nicolas
Jamain. Avec Ludovic Obraniak, avec Jonathan McCarty, l'After. On est ensemble jusqu'à minuit. Arriveront dans la deuxième heure, bien sûr, nos drôles de dames. Paulo Breitner pour revenir sur la victoire écrasante du Bayern sur le Borussia Dortmund. On parlera également de la grosse affiche demain, qui celle-là sera sûrement spectaculaire entre Liverpool et Manchester City avec Julien Laurence. Et bien sûr, le doublé de Karim Benzema avec la victoire du Real Madrid. Fred Hermel sera à nos côtés. On a lancé le débat. C'était pas forcément prévu, mais bon, ça devient lourd un peu le samedi soir, c'est vrai. Ils sont un peu longs. 6 buts marqués mais ce soir en Ligue 1, 4 matchs.
On en discutait pendant la pub avec Jonathan. Le problème également, quand tu prends les dirigeants, sont d'une impatience qui fait que les équipes sont déstructurées tous les 6 mois, tous les 5 mois. Il y a un changement d'entraîneur dès que ça ne va pas. Les nouveaux joueurs, dès qu'ils ne sont pas au niveau, au bout de 3 mois, on les change le mercato d'après.
Et à l'inverse, dès qu'un mec flambe 6 mois après, il part.
Ça aussi, on laisse pas aux gens l'opportunité de travailler ensemble sur la durée. Regarde un club comme Liverpool. Tu crois qu'Jürgen Klopp, il ne pourrait pas acheter comme il veut, chaque année, renouveler, prendre des joueurs de ci, de là? Non, lui, c'est construit une équipe. Et les mecs ont joué ensemble sur 2-3 ans. À partir du moment où tu connais le mec qui est à côté de toi par cœur, t'auras quand même beaucoup plus de chance. Mais quasiment pas. Tu vois, c'est la facilité.
C'est plus facile de garder des joueurs quand tu entraînes Liverpool. Quand tu entraînes.
Attends, je vais répondre là-dessus. Ludo, il y a une chose qui pour moi est un petit peu un symptomatique des dirigeants de clubs de Ligue 1. C'est que quand t'as un joueur qui flambe, comme tu l'as dit, et que tu vois la plus-value arriver, tu la fais tout de suite. Et tu prends pas ce petit risque sur certains joueurs, faut peut-être le faire, mais sur, tu prends pas ce petit risque de le garder pour faire une grosse plus-value par la suite.
Justement, Lille l'a fait quand même. Elle a laissé partir Pepe, mais elle a gardé quand même des joueurs qui étaient demandés.
Par exemple, Léo est parti. Par exemple, Alexis Marais, tu l'aurais laissé partir à 40 à Wolverhampton, t'aurais fait une connerie. Et voilà, pour lui, et
exactement,
pour
le
ils l'ont gardé. Il va partir pour plus cher vu ses prestations.
Et Pepe, ils l'ont gardé quand même parce qu'il avait des offres après la première saison de Galtier.
Est-ce que Pepe voulait rester aussi?
Ouais, mais
c'est lui qui a dit je veux rester.
Mais c'est important de faire l'effort.
Il faut que les gamins ils aient la tête sur les épaules.
Parce que ça détruit les joueurs aussi, ça. Cette mentalité. Ça détruit les joueurs.
Sur la chaîne RMC Live, messieurs. Alors, message pour toi, Jonathan. Jonathan, arrête avec la cellule de recrutement, les recruteurs qui bossent mal en France. Les joueurs marchent sur le terrain, c'est la faute des entraîneurs qui ne les boostent pas à courir. Voilà. Ce que nous dit Ariane sur l'hashtag RMC Live.
C'est un peu réducteur ce qu'il a dit et ce qu'elle dit. Et je pense que c'est un peu réducteur de réduire mes propos au fait que j'ai dit que c'était seulement les cellules de recrutement.
C'est vrai.
J'ai dit que c'était un facteur de l'équation.
Le problème, nous dit sur Direct Studio, vient de 98 et 2018, Coupe du Monde gagnée en mode défensif. Les entraîneurs sont trop frileux. Et le calque sur le dieu Aimé Jacquet et Didier Deschamps.
Mais il y a quand même une vague de nouvelles entraîneurs. Pélissier, Dalloglio, ces entraîneurs dont on parle souvent. Comment?
Elsner,
exactement.
Paulo
Sousa, dont on parle sous. Mais bon, lui, c'est quand même un entraîneur confirmé européen. Il y a quand même une nouvelle vague d'entraîneurs qui arrive, et j'espère que cette vague va se poursuivre, s'amplifier. Et par exemple, on en parlait pendant la pause, même si il est très bien à Lorient, je ne comprends pas que le président Sadran n'ait pas fait venir Pélissier au TFC.
Voilà, appelez-nous au 32-16 si vous voulez réagir à ce débat sur le niveau de la Ligue 1. Est-il affligeant? Est-ce inquiétant?
Nico, juste pour finir.
Le juge de paix, c'est l'Europa League, les gars.
Bah, bien
tous
sûr.
Les sons, c'est pareil. Parce qu'il y a le PSG qui est au-dessus, on le sait, l'arbre qui cache la forêt en Ligue des Champions, et encore. Mais en Europa, on n'arrive pas à battre Alexandria.
Là où j'en veux aussi aux dirigeants, c'est que tu as. Pour les entraîneurs, on peut aussi les comprendre. Ils ont constamment l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire que si tu prends pas des points rapidement, même si tu développes un peu de beau jeu, machin, si tu prends pas les points rapidement, au bout de 3 mois, tu te fais dégager, terminé. Tu vois aussi, on laisse plus. Tu vois, ça va dans la
continuité. C'est le cas, non? Ça, j'ai l'impression.
Un peu moins, peut-être. Je trouve qu'il y a une certaine impatience. Et une équipe, ça se construit pas comme ça à chaque coup de mercato tous les 6 mois.
Bien sûr,
alors tu vas trouver les bonnes pioches une fois ou deux, ça va passer. Mais sur la durée, ça peut pas fonctionner comme ça.
Et chapeau, je tire un gros coup de chapeau à Amiens pour avoir confié les clés de leur équipe à un entraîneur aussi jeune que Lucas Elsner et pour avoir une cellule de recrutement qui est performante et qui est capable d'aller chercher des godos dans des championnats.
Mais pour nos gros, j'ai aussi. On est coincé.
Merci.
On est coincé aussi parce que il faut prendre en compte le problème fiscal dans notre pays. Pour faire venir des joueurs. Je regardais une étude il n'y a pas si longtemps. Je crois que, par exemple, les charges patronales de l'AS Saint-Etienne, c'est tous les clubs de Bundesliga additionnés.
Ouais,
donc, quand tu proposes un salaire à un joueur, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Donc, on ne va pas tout mettre non plus sur le dos des dirigeants, des recruteurs, des entraîneurs.
Il y a aussi
le système européen qui fait que certains pays sont avantagés par
rapport à... Il n'aime pas tes propos, Nicolas.
Pas du tout. C'est un autre débat. Je n'aime pas mon avis là-dessus. C'est un autre débat philosophique, mais qui en fait partie, effectivement. Mais ça, c'est vrai que ce n'est pas nouveau. Même avec ces problèmes, en tout cas ces questions de fiscalité, il y a 4-5 ans, on a eu un frémissement en Ligue 1, on retrouvait du jeu, il y avait des ambitions, il n'y avait pas que grâce à Bielsa, d'autres entraîneurs, il y avait du jeu des buts.
Et ça peut y contribuer.
Après 2-3 saisons, on avait des moyens de buts qui grimpaient en Ligue 1, et la fiscalité.
Rapidement,
c'est fini au rugby, à Toulouse clairement, Nico Pollard.
Voilà, démonstration des Toulousains qui s'imposent avec le bonus offensif, 34-8 face à Clermont, victoire importante pour Toulouse qui va remonter à la 7ème place, et les internationaux français ont fait énormément de bien, ils ont marqué 3 des 4 essais toulousains du soir.
Merci, excellente soirée à toi, Nico. Ludo.
Un joueur, qu'est-ce qu'il fait?
Fabien, au 32-16, nous arrive.
En premier lieu, un joueur, qu'est-ce qu'il fait quand il choisit un club? Qu'est-ce qu'il regarde en premier?
Le coach.
Non.
La qualité de vie, le salaire.
Les installations.
Salaire, bien évidemment.
Salaire,
pour la plupart, 90%. Ça regarde le salaire.
Oui.
Et tu peux quand même... ça peut être compréhensible de se dire qu'en Allemagne, à même salaire, le club ne peut pas donner la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça lui coûte le double. Donc le joueur... tu peux lui proposer plus, mais toi, ça te coûte les yeux de la tête.
Bien sûr,
donc,
mais tu vois, Ludo, on le sait. Mais ça, c'est un problème structurel.
À salaire égal, toi, tu peux pas faire l'effort. Alors que le club européen qui est à côté de toi, il peut le faire. Mm. Donc tu passes aussi à côté des meilleurs joueurs.
Mais c'est quand même possible. Je l'insiste.
Pour moi,
la figure de proue, c'était Nice de l'époque Favre et Puel qui allait chercher Zvitanić, qui allait chercher Ricardo, qui allait chercher Jean-Michel Seri pour 500 000 euros. Oui. C'est possible de le faire quand même.
C'est possible. Fabien, supporter strasbourgeois, nous appelle au 32-16. Salut Fabien et bienvenue dans l'After.
Salut,
Salut Fabien.
Salut les gars.
Salut Fabien. Jonathan Macardy, Ludovic Aubraniac, t'écoutes. Alors toi, t'es le contre-exemple ce soir pour le coup. Hein.
Ouais.
Strasbourg jeu offensif. Ouais. 4 buts à 1, victoire ce soir des Strasbourgeois.
Ouais, ça fait plaisir. Il y avait ce soir, il y a eu la manière. C'est, je pense que c'est le match le plus abouti de la saison.
Ah oui.
Peut-être avec un ou deux matchs d'Europa League.
Ouais.
Mais il y a eu la manière ce soir. Ils ont enfin joué tout le match, à part peut-être le début de la deuxième mi-temps. Mais sinon, bon, il y a des beaux buts, il y a des bonnes combinaisons. Loré a compris qu'il fallait jouer offensif. Donc moi, je suis ravi.
Tu penses que c'est ça?
Donc ouais, plutôt ravi. Maintenant, comme disait Liénard au micro, va falloir confirmer. Vouloir confirmer à l'extérieur parce que c'est terrible à l'extérieur. Il n'y a
zéro
pas de pour le moment.
Ça va s'arranger.
Zéro but marqué à l'extérieur.
Ça va s'arranger. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'être, voilà, d'être passé vraiment à 4 et tout, ça, il n'y a pas de souci. Mais je le mets plus. Alors, pour le coup, je vais être assez indulgent. C'est pas pour que Gilbert Bribois nous augmente ou quoi. Mais je le mets plus sur le.
Il n'y a pas ce pouvoir là.
Je le mets, ouais, bien sûr.
Exagérant rien.
Mais c'est le maître de tout. Je le mets plus sur le fait que les joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont mieux physiquement. Qu'il y a une très grosse préparation qui a commencé fin juillet. Qu'ils ont eu un petit peu les jambes coupées pendant 3-4 journées. Même un peu plus pendant, allez, 5-6 journées. 5-6 grosses journées. Et que là, tu les vois, ils sont capables à nouveau de répéter les efforts. À l'image de Kenny Lala, qui me semble être remis un petit peu sur le bon chemin.
Ouais, ouais. Bon, ce soir, il y a eu du rythme.
Tu peux dire si t'es pas d'accord, mon pote, hein.
Comment?
Si t'es pas d'accord, tu peux le dire, hein, mon pote, hein.
Franchement, sur Kenny Lala, non, moi, je suis vraiment pas satisfait de son début de saison. Je le trouve, même sur le premier but, j'ai tendance à dire qu'il est plus ou moins fautif par rapport à son placement, sur le but qu'on se prend, pardon.
Ça, c'est vrai.
Je suis pas fan de cette saison. Il avait des envies d'ailleurs. Il a eu plusieurs interviews assez ambiguës où il disait que s'il était à Strasbourg quelque part, c'est qu'il le méritait. Je sais pas. Je pense que son transfert avorté je sais pas ce qui lui arrive cette saison. Bon, surtout qu'il y a Simacan sur le côté. On aligne Simacan et Cassis sur les côtés, c'est
intéressant.
C'est bien mieux. Donc pas fan de Lala.
Et bon match de Bellegarde.
Vas-y Fabien.
Non, je disais pour revenir au match par rapport, parce que vous parliez de la Ligue 1. Bon, moi, ce que j'ai aimé ce soir, c'est qu'il y a eu l'intensité, il n'y en a pas tout le temps. Par rapport à ça, très sincèrement, c'est ce que je disais à Adrien en standard. Avant, je regardais alors un tout autre match et je regardais Bayern Dortmund. Et à un moment, je zappe et je tombe sur Brest-Paris. Et là, le rythme, mais c'était le jour et la nuit. Jour et la nuit. Et vous savez, la semaine dernière, j'étais à San Siro, je suis allé voir avec ma copine Milan la Dio. Techniquement, c'était pas du haut niveau, mais il y avait du rythme, quoi. Ça courait partout. L'année dernière, avec ma copine encore, je suis allé voir Stuttgart Dortmund. Pareil, il y a du rythme. Et en fait, en France, c'est ce qui nous manque, quoi.
Mais oui, je sais pas. Nous, on a la chance d'avoir dans l'after le samedi soir un gars qui a joué en Bundesliga. Ludo, t'as joué en Bundesliga.
Non, mais Fabien, il nous parle de grosses affiches. Tu parles Milan Lazio, tu parles, quand tu vas voir Bayern Munich, Paderborn, parfois le Bayern, ils sont pas si resplendissants que ça.
Ludo,
Paris, tu peux dire le match de Brest, parce que ça les intéresse pas de jouer contre Brest. Tu le vois, les mecs, ils sont pas motivés, ils ont pas envie. Ça les fait chier. Par contre, tu les mets contre Marseille la première mi-temps, ils exposent tout le monde.
Ludo, t'as joué à l'étranger, en Allemagne notamment.
En Allemagne, c'est une autre mentalité.
D'investissement, c'est d'engagement une autre mentalité. Sur le terrain.
En Allemagne, on accepte le public, tout le monde, on accepte que c'est l'attaque à tout va. Tu peux perdre 5-0, tu mets le 5-1 à la 89e minute, je te l'explique avec Brême, le public lève, t'applaudis, tu sors sous les vivas du public.
Là, c'est culturel et ça ne changera pas donc.
Alors, ça peut être plus appréciable pour si t'es spectateur, mais en tant que joueur, quand tu viens d'en prendre 5, c'est compliqué à encaisser aussi. Donc c'est une autre philosophie, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir du tout. Nous, on a été élevés dans la culture
solide,
française,
sérieux.
C'est la culture du on d'abord on prend pas de but, après on voit. Voilà, si on n'encaisse pas, on perd pas. L'Allemagne depuis longtemps, ils ont changé depuis qu'ils ont fait les stades et depuis qu'ils ont reçu la Coupe du monde, ils ont voulu créer un engouement et ils se sont dit et ils ont mis tout le monde dans la boucle.
Maintenant, là c'est intéressant le point que tu soulèves.
Voilà, on y va maintenant,
Tu travailles à la DTN, quoi. Ça se passe à la
et
DTN.
Ils se disent aussi, c'est ça. Pour ça qu'ils remplissent les stades. Exactement. Le foot, c'est un business. Finalement, les gens veulent voir des buts, les gens veulent voir du spectacle, les gens veulent s'amuser. Et nous, on va partir sur cette idée-là.
Et nous,
c'est pas notre culture, on a du mal à s'y mettre.
Ce débat intéressant, on l'a eu cet été avec Damien Périnel, d'ailleurs, on l'embrasse.
Oui.
Et il nous disait qu'il allait avoir du changement, qu'il avait confiance au nouveau DTN, dont j'ai oublié le nom, tellement ça m'a l'air d'être
un
qu'il connaissait bien, machin et tout. Mais je pense que Ludo, t'as soulevé le point qui est juste. c'est que le travail doit être fait à la tête du football français. Ça doit être un travail de fond qui doit être fait maintenant. On doit arriver à changer les mentalités. Et parce que de toute manière, les droits télé.
Hubert Fournier, évidemment.
Hubert Fournier, c'est Hubert Fournier. De toute manière, les droits télé, je pense pas que la manne sera aussi importante si le spectacle continue de décliner et de régresser de la sorte. Il faut qu'il y ait une prise de conscience qui soit collective, un travail qui soit un travail de fond sur l'ensemble des structures du football français. Il faut que le football français puisse avancer. Mais c'est une réflexion qui est bien plus large que ce que l'on peut penser.
Profonde et structurelle. Tiens, on réagit au direct studio. Frabo nous dit, je voulais réagir, je vous lis son tweet, son message. Pareil, en crachant ainsi sur la Ligue 1, vous insultez ceux qui suivent ce championnat.
Mais on crache sur personne.
Attends, laissez-moi finir, les gars. Laissez-moi finir. En crachant sur la Ligue 1, vous insultez ceux qui suivent ce championnat, quelles qu'en soient ses faiblesses, et qui sont accessoirement vos auditeurs, donc quelque part votre fonds de commerce. Expliquez-moi.
Alors, je n'importe quoi, lui, hein.
Nous, alors, qu'on ait les droits ou pas, on dit des choses qu'on pense sur le niveau du championnat de France. Et alors, évidemment, on ne veut pas insulter les auditeurs.
Mais non.
On dit pas que, on dit juste que le niveau est faible. Mais on respecte évidemment, on est tous plus ou moins supporters de clubs de Ligue 1.
Mais c'est la Ligue 1
on qui a encore envie de supporter nos équipes.
La Ligue 1 qui m'a construit. J'ai 300 matchs de Ligue 1. Je serais personne si j'étais pas passé par la Ligue 1. J'aurais pas pu faire des expériences à l'étranger. C'est un football qui m'a nourri, qui m'a créé de grandes émotions. En aucun cas, je vais aller critiquer la Ligue 1. On est juste obligé, en tant que consultant, de faire un constat, de se dire pourquoi chaque samedi, on n'a pas plus de 10 buts sur la journée du samedi. Pourquoi, on est obligé quand même de se poser des questions. On va pas ronronner en disant, putain, si on dit du mal de la Ligue 1, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais faut sortir surtout, un peu et essayer de trouver.
J'adore nos auditeurs. Mais si on n'est pas obligé de lire les tweets de victimisation comme ça, quoi. Ouais, ça n'a ni queue ni tête. Ouais, on est d'accord.
Ouais,
voilà. Regarde, il y a un supporter à Strasbourg, il est lucide.
À l'heure où on a un regard attentif sur les compétitions européennes, c'est pour ça qu'on aimerait un peu plus d'exigence dans la Ligue 1. Et on le voit, ça se reflète dans les compétitions européennes le jeudi, le mercredi et le mardi. On a absolument pas le niveau. J'ai écouté l'after jeudi soir. On a moins de victoires que le Luxembourg, je crois, en Europa League. On est derrière, on est juste au niveau de la Norvège.
Et oui, Fabien.
Pas trop quoi. C'est terrible.
T'as raison, Fabien.
Et juste pour revenir sur l'Allemagne.
Très vite.
Allez, juste pour revenir sur l'Allemagne. Quand tu pars du principe que tu vas attaquer, t'es quand même dans une autre énergie.
Bien
sûr. Te dire que tu vois, quand tu défends, tu souffres. C'est difficile psychologiquement de subir, de défendre tout le temps, de faire
c'est
les
plus libéré, bien sûr.
Quand tu décides de jouer offensive,
merci Fabien.
Il y a de la joie dans ce que tu fais.
Merci Fabien. Excellente soirée. Tu reviens quand tu veux dans l'after avec Ludo Bragnac et Jonathan Macardy. 22h44. Le PSG dans un instant et Drôle de Dame également. À tout de suite.
RMC. L'After Foot. Nicolas Jamain.
De retour dans l'after, on est là jusqu'à minuit bien sûr avec Jonathan Macardy ce soir, avec Ludovic Obraniak, l'after de l'élégance.
Et des bleus.
Et des bleus, effectivement.
N'oublions pas.
Hommage aux anciens combattants français.
Bleus de France. Tous les bénéfices vont aux familles des gens qui ont sacrifié leur vie pour la patrie, c'est important.
Lille, je veux qu'on parle de Lille quand même, parce que Lille est 3ème de Ligue 1, messieurs.
Ouais.
Lille est 3ème de Ligue 1 grâce à son immense prestation. 0-0 ce soir face au Football Club de Metz. C'était l'Obraniak-Ico, on l'a dit.
Était pour qui?
Il était moche.
C'était pour qui, Ludo?
0-0, c'est très bien, ça m'arrange.
Un match nul dans tous les sens du terme. Ludo, on en a parlé tout à l'heure rapidement, mais quand même, Lille 3ème de Ligue 1, je ne sais pas s'il faut être heureux quand tu supporter les Lillois ou avoir peur pour la Ligue 1, encore une fois. C'est un peu le prolongement du débat qu'on avait depuis le début de l'after. Pourquoi Lille, ça ne marche pas? Pourquoi Lille, ça marche par intermittence?
C'est une vraie question, ce que tu as posé.
Mais je suis là pour ça.
Parce que ceux qui ont et qui sont censés tirer le groupe vers le haut ne sont pas au rendez-vous depuis un long moment maintenant.
Exactement.
T'as des garçons qui ont la responsabilité d'animer le secteur offensif. Ils l'ont fait à merveille sur un peu plus d'un an, un petit peu plus d'un an. Mais comme on le disait, un an et demi, mais le plus dur dans le football, c'est de confirmer. C'est ça le plus dur, c'est d'être régulier au haut niveau. Et là, il touche du doigt ce qu'est le haut niveau. Quand à Valence, t'as l'occasion de tuer le match à 2-0 et que tu le tues pas et que t'en prends 4 derrière, c'est l'apprentissage du haut niveau. Voilà. Donc, ce qui manque à cette équipe, dans la construction du jeu, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Metz n'est jamais sorti de son camp. Ils ont essayé, ils ont tenté. Le problème, c'est que tu as un terrible manque sané d'efficacité, de l'avant-dernier geste, le dernier geste est clairement pas bon. Mais... Il y a la touche de trop, il y a le mauvais choix, il y a...
Ludo. Je
suis désolé, et c'est fini. Équipe de France, c'est terminé pour l'équipe de France féminine. Victoire des Bleus, Anthony Reich.
Ouais, large victoire même. Match à sens unique pour l'équipe de France. Victoire 6-0 face à une faible équipe serbe, 41e nation mondiale. Un triplé d'Amel Majri, la lyonnaise. Une magnifique reprise de volée de Grace Guillaureau, la parisienne. Un deuxième but parisien avec Marie-Antoinette Katoto. Et pour terminer, il y a quelques instants, le sixième avec Viviane Aissey. L'Hélière bordelaise, prochaine étape européenne avec ses qualifications au printemps prochain 2020.
Excellent soir à toi à Bordeaux, magnifique ville, plein de choses à faire un samedi soir. Pas que le cours de la victoire, mais plein de choses. Pas sur les quais.
L'agence de tourisme. Ce que je voulais dire, c'est que c'était quoi la question que tu posais en préambule? C'est qu'il faut s'inquiéter, c'est ça?
Bon. Pour Lille, est-ce que se réjouir des supporters lillois de la troisième place ce soir ou s'inquiéter du niveau de la Ligue 1?
Pour moi, il faut s'en réjouir parce que c'est une équipe qui, à mon sens, connaît une crise de croissance. La Ligue des Champions est arrivée peut-être un petit peu trop rapidement pour des joueurs qui sont jeunes. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à gérer. Je pense que le groupe est talentueux et plein de potentiel, que Christophe Galtier est évidemment l'homme de la situation. Mais que voilà, la gestion de cette Ligue des Champions, c'était peut-être un petit peu trop d'un coup pour des joueurs comme Ikoné, comme Bamba. Il y a peut-être des questions. Alors, je suis pas dans le vestiaire, mais il y a peut-être des problèmes de d'ego. Ikoné a connu l'équipe de France, a connu l'équipe des champions. Et juste pour terminer, je pense que cette équipe-là, une fois que la Ligue des Champions sera un petit peu mise de côté, parce que je pense que voilà, on sait le
c'est fini, la Ligue des Champions,
c'est terminé. Je pense que tout rentrera plus ou moins dans l'ordre.
Mais comment tu veux progresser, Joe, si tu te confrontes pas à ce qui se fait de mieux au haut niveau? C'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour eux de jouer la Ligue des Champions.
Mais je t'ai pas dit. Attends. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était mal.
C'est arrivé trop tôt, t'as dit.
J'ai dit que c'est arrivé trop tôt, mais je pense que ça peut être un bien aussi. On est d'accord.
Ça n'arrive jamais trop tôt.
Parce que ça leur permet, à mon avis, même si c'est difficile, même si là ils sont dans le dur, je pense que ça va faire grandir pas mal de joueurs. Ludo, en janvier, on aura une toute autre équipe du LOSC.
Ludo et Paul, nous appeler sur
Il y a plusieurs explications à tout ça. C'est-à-dire que il y a l'exigence de jouer tous les 3 jours déjà. Ça, c'est une exigence.
Et
j'y vois pas forcément la fatigue, puisqu'ils nous ont prouvé qu'avant ou après un match de Ligue des Champions, ils ont fait un match où ils ont imposé à Bordeaux une intensité terrible, où ils leur ont mis. Bordeaux n'a pas réussi à se sortir de ce guépier-là. Donc, je ne vais pas mettre ça sur le plan de la fatigue, je vais mettre ça sur le plan de. À chaque fois vouloir en faire un petit peu plus. Jonathan Ikoné, il était d'une spontanéité, d'une simplicité l'année dernière. Il jouait souvent en première intention. Bah oui, forcément, Pépé s'en va. C'est lui qui a la responsabilité de prendre sur ses épaules l'attaque lilloise. Te prends pas la tête. Il veut en rajouter. Il en fait des tonnes. Jonathan Bamba, c'est pareil. Il a à chaque fois la touche de trop, le sprint de trop. La passe est jamais. Il y a ce manque de spontanéité offensif qui fait que c'est la machine est un petit peu enrayée et tu peux pas te reposer simplement sur Osimhen qui a beaucoup moins de qualité
dans la construction aussi, je trouve.
Il est bien mais pareil, il faut lui laisser un peu de temps.
Il est en progrès les gars.
C'est aussi la construction d'une équipe. Cette équipe-là, elle a quand même changé.
En fait, tu regardes. Non, mais regarde. Tu compares l'11 de l'année dernière et l'11 de cette année. Il y a quand même la moitié, quoi, qui est différente.
Koné, Pépé, Léao, notamment. Paul,
même Benjamin André.
Benjamin André.
Ceux qui sont partis.
Ouais. Au 32-16. Salut, Paul.
Oui, bonsoir Nico. Salut Ludo.
Salut Paul. Bienvenue dans l'After et Jonathan et Ludo. Comment tu expliques? Bon, t'es content que Lille soit troisième ce soir? Ou pour toi, c'est anecdotique?
Non, absolument pas. Absolument pas. Tout à l'heure, Nico, tu demandais. Est-ce que c'était une crise ou est-ce que c'était il fallait être confiant? John, tu disais qu'il fallait être confiant parce que par contre tout ce que tu disais, moi je suis pas du tout d'accord avec toi.
Ok.
Je parlerai pas de crise parce qu'il faut quand même pas exagérer.
Oui.
Mais il y a un mot pour moi qui caractérise aujourd'hui le passage lillois, c'est dilettantisme.
On t'a pas entendu, tu peux répéter s'il te plaît?
C'est du dilettantisme.
Dilettantisme, ok.
Ludo, tout à l'heure, t'as eu les mots exacts. Ikoné, l'an dernier, il était spontané, il allait vite, il se posait pas de questions. Là, j'ai vu son match, mais
il touche 10 fois le ballon avant de le donner.
Mais il a un boulard, mais en fait, il a la tête à Chelsea, à Manchester City, à Séville, au Milan, mais il a plus du tout la tête à Lille.
C'est pas forcément synonyme de boulard. Je pense qu'il se met des responsabilités trop grandes.
Ludo, t'as vu le match?
J'ai vu le match. Enfin, on a regardé le multiplex, donc j'avais forcément l'œil un peu plus sur le match de Lille.
J'imagine bien.
Mais c'est vrai que ce garçon, il doit endosser. Il a dû avec le. C'était une triplette hein, quand même. Hein. Ouais. Ces garçons-là, ils s'entendaient tellement bien que quand on en a retiré un, les deux autres, ils se sont dit putain, ça va être à nous de faire le taf. Donc les mecs, ils se disent attends, il faut que j'en fasse un peu plus ci, un peu plus là. Mais ils se trompent sur la manière de faire plus en fait. C'est juste ça.
Vas-y, Paul.
Ils se trompent sur la manière de faire plus.
Ludo, honnêtement, d'habitude, t'as une analyse très pertinente, mais là, je suis pas d'accord avec toi. Pour le coup, je suis pas d'accord avec toi.
Dans quel sens ? Toi, tu penses juste qu'ils ont pris la grosse tête, tout simplement ?
Non, c'est pas que ça. Au début, je pouvais comprendre, lors des 2, 3, 5, 6 premiers matchs, et lors des 2 premiers matchs de Ligue des Champions, qu'effectivement, ils se disaient, Pépé est parti, il faut qu'on prenne le jeu à notre compte, il faut qu'on se mette à la hauteur de l'événement. J'entends. D'accord. Là, on est mi-novembre, et le match de Ikoné ce soir, le match de Bamba, me font penser qu'en fait, ils n'ont plus la tête à Lille.
Je pense que, comprends ce que tu dis, mais je pense que t'es un petit peu impatient. Je te demanderais, moi, avant de me dire, avant d'avoir un avis définitif sur la question, d'attendre janvier. Même si c'est difficile quand t'es supporter, hein, je comprends. Hein.
Merci Paul.
Merci d'avoir Paul.
Salut Paul.
Reviens quand tu viens dans la fière, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous, notamment le week-end. Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak, 22h55. L'after est là jusqu'à minuit, bien sûr, dans un instant. Le Paris Saint-Germain, vainqueur minimaliste de Brest, 2-1. Un PSG moyen, mais leader, 30 points, 39 possibles. Cavani, sa première titularisation depuis le 25 août dernier, vous en avez pensé quoi ? Icardi qui rentre, qui marque, deuxième ballon touché. Les choix de Tourelle également, les choix tactiques. On en parle à peu nous, supporters parisiens, à tout de suite.
RMC. L'afterfoot. RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Roussanou.
Ratti, là, tu la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid. Parka.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy, avec Ludovic Obraniak, l'after est là comme tous les soirs jusqu'à minuit. Dans quelques minutes, l'arrivée de 3 de nos 4 drôles de dames, Julien Laurence, Fred Hermel et Polo Breitner.
Sont-elles élégantes ?
Polo est très élégant.
Ouais.
Tu sais, élégant, ce n'est pas que vestimentaire. Hein. C'est un comportement, une attitude générale. C'est
Polo est gauche, donc il est forcément élégant pour toi,
le
Nico.
Le choix des mots également. Mm-hmm. La délicatesse.
C'est comme si tu n'avais pas entendu.
L'intégrité. Le raffinement.
C'est comme si tu n'avais pas entendu ce que je viens de dire.
Pas de place pour les grossiers. Et les grossiers, ce n'est pas que les vulgarités. Hein,
tu continues de faire comme si tu n'avais pas entendu ce que j'ai dit.
Parce que tu dis n'importe quoi. Comme d'habitude, Jonathan Macardy.
Ludo, t'es sûr qu'il y en a entre quoi là ?
Les drôles de dames sont dans le sas de l'after de l'élégance, bien sûr. Le PSG, messieurs, le PSG est premier de Ligue 1. 30 points au compteur sur 39 possibles. Le PSG a gagné cet après-midi 2-1 sur la pelouse de Brest grâce à des buts de Angel Di Maria à la 39e et de Mauro Icardi à la 85e. C'est Grand Cirque qui avait réduit l'écart à la 72e minute de jeu. Paris, si je compte bien, si je compte la deuxième période face à Marseille, reste sur 3 matchs et demi moyens. Il y a eu deuxième mi-temps face à Marseille, il y a eu le match face à Dijon, la défaite, ce match aujourd'hui face à Brest et également, je n'oublie pas, la petite victoire face à Bruges en Ligue des Champions. Ludo, est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce constat ?
Oui, je suis assez d'accord sur ce constat. Comme on en parlait dans le multiplex, t'as l'impression que Paris, t'as un espèce de jumeau maléfique qui apparaît. Alors avant, c'était de temps en temps et puis au fil du temps, ce jumeau maléfique, il apparaît de plus en plus souvent.
Jumeau maléfique.
Il prendrait presque le dessus où t'as une équipe qui peut être flamboyante et plaisante à voir jouer. Et puis tu vois une équipe parfois qui est suffisante, paresseuse, en manque d'inspiration, pas motivé, avec un entraîneur qui fait des choix
faut aller plus loin. En fait, c'est depuis Manchester, comptons les bons matchs du PSG. Les bons matchs intégraux, hein.
Il y a eu le Real.
Il y a eu un autre match de Ligue 1 dont j'ai oublié, mais
contre Lyon, il y avait une mi-temps qui était vraiment très bonne.
Non, un match, ouais, il y en a 2-3.
Oui.
On continue sur une série qui est
depuis donc début mars 2019.
Ouais. Et pourtant la patte Thomas Tuchel au début, c'était de ne rien lâcher de zéro de la première à la 90e minute.
Mais il
ne supportait pas que l'équipe baisse de régime. Elle mettait de l'intensité pendant tout le match et elle écrasait tout le monde.
Mais tu l'as dit.
Force
en fait.
Est de constater que c'est vraiment t'as plus parlé, le cas aujourd'hui, quoi.
T'as parlé. Et attends, attends.
Même que
t'as parlé de jumeaux maléfiques. En gros, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un espèce de climat qui s'est installé au Paris Saint-Germain. Et je pense que ce climat a contaminé Thomas Tuchel. Alors, j'espère qu'après, on va avoir parlé du match, on parlera de ses propos. Mais pour moi, c'est
on va l'écouter. Mais en même temps, quand tu vois la composition d'équipe d'entrée, tu te dis, tu sais déjà à quoi t'attendre pratiquement.
Oui, effectivement. Justement, on écoute Thomas Tuchel avant d'accueillir Malik au 32-16. Thomas Tuchel, après la victoire du PSG 2-1 grâce à Icardi à la 85e minute. Thomas Tuchel.
J'aime beaucoup cette victoire. C'est une belle victoire. C'était difficile. C'était comme un match en coupe. Et on a changé beaucoup. On a joué avec beaucoup de joueurs qui manquent un peu de rythme. Et pour ça, il manque un peu confiance. Et c'était nécessaire pour être frais dans la tête, dans les pieds. Et ils sont faits bien.
J'ajoute également les propos de Draxler qui a dit après le match, il faut quand même rappeler qu'on est les seuls, les premiers à gagner à Brest cette saison. Bah, voilà. Ludo, tu penses quoi ? On a fait un bon match. J'ai bien aimé notre match, a dit Thomas Tuchel.
Que pourrait-il dire d'autre ?
La vérité, il
fustige aussi. Ben, il le dit parfois, ça lui arrive, mais il peut pas le dire en permanence. Ça serait dangereux pour lui d'insister sur le fait que son équipe à chaque fois c'est les mêmes mots qui reviennent constamment. Mais la compo d'équipe. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Julian Draxler, j'adorais ce joueur. Il a une classe folle. C'est un joueur qui est, encore quand il jouait en équipe d'Allemagne titulaire, un joueur formidable.
Putain, faut il a régressé.
Non, mais il faut reconnaître qu'il est à côté de ses
contaminé par le climat parisien, comme on en parlait tout à l'heure.
Il est plus en forme. Il est plus en forme physiquement. Il fait pas les efforts.
Pourquoi tu parles des joueurs là ? On s'en fout des joueurs ce soir.
Si, c'est quand même eux qui sont sur le terrain.
Pour moi, ce qui compte en fait, l'épisode de ce match-là, c'est ses propos. Les propos là, on les a pas eu dans son intégralité, mais il y a une autre partie de l'interview où il dit qu'il a demandé, ou enfin, je sais plus si c'est dans l'interview ou si c'est une info, c'est qu'en gros, il aurait dit à ses joueurs qu'ils pouvaient pas jouer tous les matchs, que c'était pas grave de pas jouer tous les matchs à fond, etc. Non, mais alors ça, c'est vraiment prendre le problème par le très mauvais bout. Parce que je pense que l'exigence que tu soulignais qu'il avait lors des six premiers mois, c'était la clé. C'était ça qui faisait que l'équipe du Paris Saint-Germain, sur les six premiers mois de Thomas Tuchel, c'était une équipe qui était enthousiasmante et qui me semblait avoir les armes pour aller plus loin en Ligue des Champions que l'accident et le drame face à Manchester United. Je pense que le haut niveau, en fait, si tu veux être une équipe de haut niveau qui est capable de jouer la gagne en Ligue des Champions, tu dois avoir cette exigence et mettre cette intensité dans
mais
tous les matchs.
Il le dit, regarde, il a dit il y a trois semaines après Marseille, je veux mes joueurs contre Brest. Jouer Marseille ou le Real, je disais la même exigence.
Oui, mais sauf que là, alors, pourquoi il se contredit ?
Son discours ne passe
plus. Laisse-moi terminer là-dessus. Moi, je veux dire juste que des entraîneurs comme Henkes qui a gagné avec le Bayern ou comme Jurgen Klopp qui a gagné l'année dernière, c'est des entraîneurs qui demandent à leur équipe de jouer les matchs à fond, peu importe le match qu'il soit. Et c'est pour ça que ça me fait dire que c'est cette incohérence de discours qui illustre simplement que Tuchel est totalement à côté de ses pompes depuis Manchester, mais qu'il est en plein naufrage. Alors ça se voit pas trop parce qu'il y a eu ce match contre le Real Madrid qui s'est joué sur l'orgueil, sur ce que la paire de couilles des joueurs du PSG qui voulait prouver. Qui voulait prouver que Manchester, etc. Mais l'équipe doit être jugée sur l'ensemble des matchs qui a été joué depuis Manchester et c'est dramatique. Les choix sont incompréhensibles, les compositions d'équipe sont toutes plus farfelues les unes que les autres. On dirait un professeur un petit peu fou dans son laboratoire. Mais il faut le dire, Thomas Tuchel est totalement à côté de ses pompes.
D'autant que c'est probablement la meilleure équipe que tu aies eue en termes de quantité, nettement. Le rapport quantité-qualité, l'homogénéité de l'équipe du Paris Saint-Germain à tous les postes. Tout a été comblé.
C'est une des premières.
Il a eu ce qu'il voulait. Il a eu quasiment.
Paris, messieurs, les gars, a perdu 9 fois en 2019.
Et voilà, mais c'est dramatique pour une équipe.
C'est un record de 2010.
Malik, attends juste. 16. Un tout petit truc, c'est que vous savez que pour quel club je suis, mais c'est une des premières fois où je suis vraiment hyper jaloux et dégoûté de voir l'effectif que le PSG a. Il a du matos de malade entre les mains.
Ça fait quelques années quand même qu'il
et Brest, y a un matériel là, Brest, c'est dingue. Brest aurait mérité beaucoup mieux en plus.
Malik, supporter du PSG, nous appelle au 32-16. Bienvenue dans l'After, Malik.
Salut à tous.
Salut Malik. Salut
Ludovic Obraniak et Joe Macal. Écoute,
c'est toi qui es sur Twitter là.
Comment ?
C'est toi qui a Malik chez un numéro 92 quelque chose sur Twitter.
Non.
Allez.
T'as
raison. Ça aurait pu. T'es pas d'accord avec Ludo, il paraît, on m'a dit dans l'oreillette.
Ouais, non, en fait, ce dont parlait Ludo tout à l'heure, bon, déjà, gros respect à Ludo, par rapport à ce que t'avais dit une fois sur Gay, la petite discussion que t'avais avec Taki, tout ça. J'ai rarement entendu ça dans la terre,
Gay, explique-moi là, depuis le match du Real de Madrid, tu trouves qu'on a affaire à un bon Idrissa Gueye? Il y a un bon abattage sur ce match-là avec Verratti, il y a un bon abattage au milieu de terrain pour ce qui est de la récupération du ballon. Et le reste.
Il est contaminé par la
Et le reste.
Mais Malik, dis-nous,
moi, je veux bien. Ouais, Idrissa Gueye, super. Ludo, moi, je suis le premier à reconnaître.
Laisse parler Malik, Ludo. Vas-y, Malik.
J'étais d'accord avec toi, Ludo, en fait. Je crois que tu m'as bien entendu, mais j'étais d'accord avec toi.
Pardon, Malik, excuse-moi. Excuse-moi, Malik. Vas-y, je t'écoute.
Non, mais en fait, après, Gueye, il a été recruté. On sait pourquoi. C'est pour surtout l'aspect défensif, parce que Paris, avant, c'était ça. C'était de mettre 3 ou 4 joueurs à vocation offensive, et derrière, il n'y a rien qui suivait. On avait qui l'année dernière? Au coup d'envoi de la saison, on avait marqué Verratti comme seul milieu. Rabiot, il n'existait plus. On avait que Verratti, tu vois. Donc, c'était difficile. Mais en fait, ce dont je voulais te parler, j'étais déjà d'accord avec toi. Sur le fait, sur les compos de Tourelle, c'est vrai, les joueurs qui mettent des fois mettre Bernat au milieu, etc., ça c'est bizarre, même Kurzawa le relancer, ça je suis pas trop d'accord avec, je suis pas d'accord avec lui, je trouve ça vraiment bizarre. Mais après, moi je pense une chose, c'est que les joueurs parisiens, étrangers ou pas, ils s'en foutent du championnat de France.
Ah bah c'est sûr, ça contribue, bien
à
sûr.
À chaque fois qu'ils font un match, qu'ils font une mi-temps à haute intensité, ou à intensité, on va dire, normale, ils gagnent largement le match. Tu sais, ils savent qu'ils sont déjà champions. Et c'est pas ça. Paris peuvent gagner 15-0 chaque match, comme on le faisait sous Laurent Blanc ou au début de Tuchel, ou gagner 1-0 à l'arrache. À la fin, ce sera au mois de février.
Je suis totalement d'accord avec toi. Ça sera au mois de juillet qui seront jugés, de février qui seront jugés. Faut pas être trop bon, trop tôt dans la saison. Ça, t'as totalement raison là-dessus. Exactement. Mais je pense qu'il y a quand même une différence entre, se roder pour les échéances du printemps et être pathétique. Sauf sur 3-4 matchs, comme tu l'es.
Je pousse un peu le bouchon.
Pathétique, je pousse le bouchon, mais d'être mauvais, comme tu l'es, sur la majorité des matchs.
D'être moyen.
Plus effectif que t'as. Juste pour terminer, depuis l'élimination contre Manchester. Et je pense aussi que cette espèce de climat, tu vois, un petit peu de confort, on prend les choses à la légère, ça t'aide pas à te préparer pour le printemps.
Mais Jonathan, je suis d'accord avec toi, le confort, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ils l'ont déjà fait, les saisons où ils ont commencé à avoir 20 points. Regarde, là, ils ont joué en mal, on va pas te mentir. Après 2-3 matchs, 2-3 brides de matchs par-ci par-là, on joue mal. Malik, mais regarde, ils ont combien? Ils ont 9 points d'avance sur le deuxième. Malik, ils ont déjà 9 points d'avance sur le deuxième. Attends, une dernière chose, City, Bayern, etc., des fois, ils te font des premières parties de saison pourries. Mais à la fin, ils sont là. Tu vois ce que je veux dire? Le Real, regarde, ils commencent à te réveiller, là. Ils commencent à se réveiller, le Real. Mais sinon, c'est à partir de janvier-février qu'on juge ces équipes-là. Tu vois ce que je veux dire?
T'as raison,
Malik. Prends aussi à l'inverse de ce que tu vas dire. Regarde le dernier carré de la Ligue des Champions. Regarde Liverpool. Regarde la Juventus. Regarde d'autres équipes et regarde leurs matchs contre les équipes soi-disant plus faibles. Et tu verras qu'un caractère d'une équipe qui est compétitrice et qui a la rage de vaincre à tous les matchs, c'est quelque chose qui s'acquiert. C'est-à-dire la culture de la gagne, de la victoire, la haine de la défaite, c'est pas un truc que tu peux avoir comme ça une fois de temps en temps sur les matchs importants.
C'est là où
c'est le plus difficile. T'as vu Liverpool
qu'on a
à chaque fois ils sont en galère. À chaque fois ils vont chercher les mecs, ils perdent 1-0, ils vont gagner 3 fois, 4 fois, 5 fois dans les arrêts de jeu. Les mecs ils se dépêchent.
Mais oui, mais c'est un état d'esprit.
Tu apprends à souffrir.
Là t'es contaminé.
Les gars, le foot c'est comme le bac. Si tu bosses mal toute l'année.
C'est ça?
C'est pas simple. Ta Ligue des Champions, ta demi-finale, tu la prépares dès le mois de novembre ou de décembre.
Exactement.
Même si certains ont eu leur bac en bossant juste.
Non, ta Ligue des Champions, tu la prépares en juin de la saison d'avant avec ton mercato même.
Bien sûr.
Ludo.
Je dis merci à Malik.
Ouais.
Merci Malik.
Salut Malik.
Excellente soirée à toi, Malik.
Ciao, ciao.
Salem arrive aussi.
Mais par rapport à ce que disait Ludo, il a raison. Regarde, par exemple, un joueur comme Cristiano ou un joueur comme Chiellini, quand ils jouent contre Spal, ils ont autant les crocs que lorsqu'ils jouent en Ligue des Champions.
Le mec veut jouer tous les matchs, il veut scorer.
Ah oui! C'est important, ça te met dans le bon état d'esprit pour en février qu'une déconvenue comme tu as subi contre Manchester United n'arrive pas. Parce que ce match-là contre Manchester United, pourquoi je reviens là-dessus, c'est pas pour faire mal aux supporters parisiens, mais c'est clairement le symptôme d'une équipe qui prend les choses d'une manière dilettante, qui prend les choses un petit peu trop à la légère. Et quand c'est le moment, quand t'es poussé dans tes retranchements, t'es pas habitué à avoir un état d'esprit de gagnant qui déteste la défaite, qui est capable de sortir ses coronets et de les mettre sur le terrain. Et ça, c'est un peu embêtant. Et Tourelle, son discours, j'insiste là-dessus, il est calamiteux. Et comme tout l'an, comme 80% de ce qu'il dit en conférence de presse depuis l'élimination contre Manchester, il est à côté de ses pompes, le pauvre là.
Pas démissionnaire, mais il accuse le coup, je trouve, de plus en plus.
Ah oui.
Ça réagit beaucoup sur l'application Direct Studio, sur l'application RMC Sport, pardon, Direct Studio. Momo PSG nous dit, j'ai mal à mon PSG, c'est horrible, Tourelle démission, trop à côté de ses pompes. J'ai la rage quand je les vois jouer. Toutou nous dit également, il faut arrêter de dramatiser, Jonathan. Même le Barça, le Real et d'autres grands clubs ont des difficultés. La Juve ronronne aussi, Ludo.
Mais c'est voilà pas ce pareil. Dit, c'est pas pareil. La Juve vient de changer d'entraîneur. Le Barça, l'entraîneur, il est en fin de cycle. Et le Real, bon, il y a eu beaucoup de recrues, pas forcément très productifs pour l'instant. Donc, tu peux pas comparer.
Nicolas Troyes nous dit, Jonathan, PSG dramatique. Tout n'est pas parfait, mais 4 victoires en 4 matchs de Ligue des Champions. Même si les gars mettent l'intensité quand ils ont envie, tu te laisses emporter par ton côté supporter une fois de plus.
N'importe quoi.
Je te dis juste que si tu regardes le dernier carré de la Ligue des Champions, bah, les équipes Liverpool, Tottenham, Barça, Real, ils n'étaient pas dedans. Voilà, et tout simplement.
Donc,
l'exemple du Barça et du Real est symptomatique aussi du Paris Saint-Germain. C'est qu'ils perdent beaucoup trop de matchs maintenant dans leur saison régulière et qu'ils sont parfois dans une.
Tu
flémardes un peu.
Salem, supporter du PSG au 32-16. Bienvenue dans l'after, Salem.
Bonsoir.
Salut Salem.
Sur RMC,
Salem, Jonathan Ricardi, Ludovic.
Salut les gars, je vous écoute tous les jours.
Vas-y.
Je vous écoute toute la journée. Là,
merci Salem.
J'aimerais bien revenir sur ce qu'a dit Jonathan sur Tuchel et sur ce qu'a dit Ludo tout à l'heure sur le match du PSG.
Avec plaisir, mon pote. Vas-y.
Je voulais revenir en fait. Pour arrêter de taper sur Tuchel, les gars. Comment vous voulez. Vous critiquez la prestation du PSG à Brest, par exemple. Mais la prestation du PSG à Brest, vous pouvez pas jouer avec la même motivation, avec la même qualité. Tu veux proposer du jeu comme ça, comme vous avez joué à Manchester, à Barcelone, à l'OM, au Vélodrome, à Lyon. Vous pouvez pas proposer les mêmes prestations. C'est ça que je voulais dire. La victoire, elle a été assurée, certes. Il y a eu des joueurs qui, oui, vous dites Kurzawa, mais ces joueurs-là, il faut leur donner du temps de jeu. C'est sur ces matchs-là qu'on leur donne du temps de jeu. Kurzawa, Draxler, tout ça, Cavani, il revient de blessure, il faut leur donner du temps de jeu. Et donc, je trouve, vous êtes trop dur avec Tuchel.
Son discours, il ne te dérange pas.
Comment ?
Salem, son discours ne te dérange pas.
Moi, son discours, il ne me dérange pas parce que ces matchs-là, justement, il ne faut pas. Doucement, les gars, on a des matchs
qui
arrivent, des échéances importantes. C'est Brest. Il faut assurer la victoire. On n'est pas là pour
attends, Salem, juste que je te pose une question. Par rapport à ce qu'on disait sur le fait que, et Ludo aussi était sur la même ligne, du fait que l'état d'esprit de vainqueur et détester la défaite, ça s'acquiert au cours et au fur et à mesure de la saison.
Mais c'est là.
Mais justement, cet état d'esprit-là, je pense qu'il est inculqué dans l'équipe déjà. Il est inculqué dans l'équipe et la Ligue 1. Tout à l'heure, vous comparez à Liverpool, mais les championnats-là, ils ne sont pas comparables. Les équipes qui.
Là, t'as un point.
En Angleterre, en Espagne. Ils ne proposent pas la même qualité de jeu. Ils sont pas à 11 derrière en train
là-dessus,
de
raison,
en train des blocs.
Sauf que Brest n'a pas joué à 11 derrière. Ils ont proposé un jeu bien plus alléchant que celui du Paris Saint-Germain ce soir.
Je reste
sur mon propos sur le fait que les grands champions, tu prends n'importe quel joueur, Mané, Cristiano, Messi, ils font pas de différence que ça soit Leganés, que ça soit Madrid, que ça soit Valence, que ça soit un tel ou un tel. Ils veulent scorer, ils veulent marquer leur empreinte dans chaque match.
Parce que Salem, tu apprends, ils jouent pas au ballon comme Olivia, c'est pas ouvert, le match il est pas ouvert. On peut pas, il y a pas de contre-attaque, comprenez ce que je veux dire.
Bah là c'était ouvert ce soir.
Il a raison, c'était ouvert là.
Le football en France, malheureusement, il y a un problème, c'est qu'il est, il est malheureusement.
Pas sur le match de ce soir, Salem.
Non, je suis d'accord avec vous. Mais le football en France, il est axé sur le physique, sur la taille, sur les duels.
Ça, t'as pas tort. Est-ce que tu m'as dit ça, t'as pas tort.
Normalement, dans les autres championnats, Angleterre, Espagne, Allemagne, c'est la primo, c'est la technique. Primo, c'est la technique, c'est la qualité du joueur. C'est la première qualité qui doit détecter chez un joueur. En France, non.
Je ne comprends pas le Cavani, messieurs. Ce qui me gêne vraiment, Salem, c'est que, en fait, le PSG avait tendance à survoler les championnats et à laisser passer dans l'année, aller un ou deux matchs, mais c'était dans l'année. Là, ça commence déjà à faire beaucoup. On n'est même pas à la moitié de la saison. Si tu veux, j'ai l'impression que le PSG, en ayant laissé filer l'année dernière quelques matchs en fin de saison, ils ont ouvert une brèche. Ils ont ouvert une brèche dans laquelle s'infiltrent des équipes moyenne ou plus faible ou et tu es en difficulté,
tu es des joueurs de foot professionnels, ouais. Tu trouves pas que le PSG a une différence avec les autres saisons, c'est qu'ils essayent de gérer, la saison pour arriver en deuxième partie de saison avec des joueurs au top. Ouais, ils n'essayent pas de là surtout sur ces matchs-là en fin d'année, etc.
Attends Salem, j'apporte de l'eau à ton moulin, Salem. T'as raison sur une chose, il faut pas oublier que contre Manchester, il te manquait Neymar, Cavani était blessé, t'avais quand même une palanquée, l'infirmerie était pleine.
Oui, mais bon,
pour moi,
gérer, c'est perdre d'avance.
Oui.
Tu vois,
bien
quand
sûr.
Tu gères, et
c'est
t'apprends à gérer,
oui.
T'apprends ton corps à gérer, t'apprends ton esprit à gérer aussi.
Le dicton, ne pas prévoir, c'est déjà.
Je te dis, Salem, c'est pas pour la suite,
c'est vrai. Salem, on va écouter Thomas Tourelle sur la prestation d'Edinson Cavani. Je rappelle, première fois titularisé depuis le 25 août dernier à Brest aujourd'hui. Écoutez.
Eddy, c'est un peu inverse. Il manque un peu de rythme, il manque confiance, il manque un but. Et pour ça, c'est toujours difficile pour un attaquant, pour le numéro 9, parce que c'est une poste très sensitif. Mais on n'a pas autre occasion possibilité que accepter et combattre et travailler dur.
Voilà, donc il reconnaît effectivement ce que tout le monde a vu, c'est qu'il manque de rythme, manque de confiance.
Comment
vous jugez le match de Cavani, Ludo ?
Je veux pas revenir là-dessus. Il y a pas à se formaliser. Cavani a été absent très longtemps.
Oui.
Il revient. Il a pas un match complet dans les jambes. De plus, dans un match où le Paris Saint-Germain dans le jeu ne brille pas particulièrement. Donc je ne lui en tiens pas rigueur. Laissons-lui le temps de revenir tranquillement. Il y a pas péril dans la demeure.
Mais quand tu veux qu'il revienne, Icardi Cavani. Il rentre et joue 5 minutes.
Ça, c'est la loi de
deuxième ballon, il marque le 9e but de la saison.
Ça, c'est la loi de la concurrence. C'est un mec qui est en confiance et un mec qui est un peu bousculé, qui perd un peu la confiance.
Laissez-lui
le temps de sortir physiquement.
C'est simple.
Il a été absent longtemps.
On le verra. On verra Edinson Cavani, le vrai Edinson Cavani, de retour en janvier après la trêve. Il faut qu'ils reprennent le rythme. Mais là, c'est vrai que Mauro Icardi marche sur l'eau en ce moment. Il y a des creux dans le cours de la saison. Il y a des blessures, des suspensions. Il va avoir les coupes la Coupe de France qui va commencer aussi en janvier. Il y aura plus de matchs à jouer. Il faudra gérer. Et je pense que Cavani, là, de toute manière, il a été absent très longtemps. Il est trentenaire, plus que trentenaire. Il faut qu'il reprenne doucement. Donc, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas du tout le feu à la maison, hein.
Et par contre, au Paris Saint-Germain, il y en a un qui s'est mis au diapason et qui a vraiment changé d'attitude. C'est Marco Verratti. Vraiment.
Sur les matchs,
il cavale, il tacle. Alors, il prend quelques risques des fois, mais parce que.
C'est son jeu.
Les partenaires autour, de temps en temps, ils lui donnent pas les solutions. Il est obligé de se démerder, donc il prend beaucoup plus de risques. Mais dans l'état d'esprit, tu sens qu'il y a un vrai bouleversement chez ce garçon. Il prend vraiment les choses beaucoup plus à cœur, j'ai l'impression. Et honnêtement, c'est à souligner. Franchement, ouais.
Alors, autant j'ai pourri Tourelle auparavant, mais ça, je pense qu'on peut aussi quand même mettre ça à l'actif de Thomas Tourelle.
Moi, je crois que c'est une forme de maturité. C'est le joueur qui a décidé cette année dans son coin.
Je pense que
ce
qu'on m'en a dit, c'est qu'il le gère bien et que le contact passe bien avec lui, qu'il a eu des discussions avec lui et que ça, ça va dans le bon sens parce que c'est un joueur qui a un talent, pas besoin de faire de dessin. Hein.
Jonathan Bacardi, merci Salem. Excellent soir à toi.
Ciao,
sur RMC avec Ludo Bragnac, Jonathan Bacardi. 23h20, on a du temps pour les drôles de dames qui arrivent là. J'entends le pas léger de Fred Hermel.
Léger
également, je vois le regard vif de Paul
Breitner. Qui doit être en promo, à mon avis, doit pas être si léger.
Oui, il est pas en Espagne, Fred Hermel. Il est en promotion pour son livre Zidane. Fred sera avec nous, Paul Breitner également, Julien Laurence. L'after est là. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Avec Ludovico Bragnac, avec Jonathan Bacardi, c'est la dernière demi-heure. Et elle est belle, elle est dense, puisque nous avons les drôles de dames au programme, messieurs. Tiens, rapidement, avant d'accueillir Paulo Breitner, pour parler notamment du Bayern Munich qui a étrié le Borussia Dortmund en soirée. Le groupe de Lyon est tombé en début de soirée avant le déplacement à. Comment ? Memphis. Note Memphis Depay pour le déplacement de l'OL à Lyon, à Marseille demain. Lopez, Tatarusanu, Kone, Andersen, Marcelo, Denayer, Dubois, Raphaël, Aouar au milieu de terrain, Mendes, Maxence Cacré, Lucas, Reine Adélaïde, Terrier, Dembélé, Cherki, Cornet, Traoré et, surprise du chef, le retour dans un groupe de 19 de Mapou Yangambiwa.
Ouais,
première fois dans le groupe depuis plus d'un an. Un an et demi à l'Olympique Lyonnais. Il était totalement tricard la saison dernière. On pensait qu'avec Silvinho, il allait rejouer. Non, le revoilà.
On en discutait avec Roland tout à l'heure. S'il est dans le groupe, c'est que c'est possible peut-être qu'il repasse à 5 derrière.
Oui, peut-être une solution. Un Gabiwa qui a connu, Rudy Garcia à l'AS Rome aussi. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a une volonté de Rudy Garcia de relancer ce joueur qui a une drôle de carrière qu'on imaginait forcément plus, plus belle. Celle de Yogan Biwa. Voilà pour les infos. Je rappelle également Hiroki Sakai, Jonathan.
Oui.
Suspendu.
Suspendu, oui.
Il sera pas là demain soir.
Très inquiet. Et ça sera Bounassar et Jordan Amavi. Et la seule question dans la composition d'équipe marseillaise, c'est quel milieu de terrain? Parce que Strootman est à nouveau disponible. Donc, il continue avec Bouba Camara en 6.
A priori, alors, à confirmer, hein, mais selon nos infos, ce sera Bouba Camara en 6, en sentinelle.
Donc, avec Tchaleta Tsar et Alvaro derrière. Et
Alvaro n'est pas encore à 100%, selon nos infos également, mais il sera quand même à Lille.
La question maintenant, c'est de savoir qui ce sera qui. T'en as deux à choisir parmi Rongier, Lopez et Sanson.
Exactement. Bah, Rongier sera là, c'est sûr.
Ouais, et après, c'est Sanson et Lopez.
Comme d'habitude.
Salut, Paulo Breitner.
Bonsoir Nicolas, bonsoir messieurs.
Salut Paulo. Bien, on s'est régalé, nous on a vu ça d'un œil avec tous les matchs de Ligue 1 également. 4-0 victoire du Bayern ce soir. Face au Borussia.
Presque autant de buts qu'en Ligue 1, hein, Paulo, sur un match.
Ils ont pas besoin de coach, Paulo, finalement, ils se gèrent.
Mais c'est en fait.
Ils ont un coach.
Mais c'est ça qui est très intéressant. Bon, déjà, sur le match, quand même, c'est très intéressant. Parce qu'ils ont complètement écrasé le Borussia Dortmund, j'ai envie de dire, presque traditionnellement. L'année dernière, ils en avaient mis 5. Il y a 2 ans, ils en avaient mis 6. Donc, c'était quand même assez intéressant.
Polo diminué, ouais, le Borussia, quand même.
Le Borussia est un petit peu diminué. Mais attends, il n'y a pas de défense centrale non plus au Bayern Munich, hein. Hernandez sont pas là. Ce qui est super important, je pense, on en avait parlé un petit peu, c'est la compo du Bayern Munich. C'est-à-dire que Thomas Müller et Goretzka à la place de Coutinho et de Thiago Alcantara, c'est acté en fait. Et donc c'est quand même un signe très très fort par rapport à ce que faisait Niko Kovac. Moi, ce qui m'a fondamentalement plu dans cette rencontre, en dehors d'une ambiance extraordinaire qu'on n'avait pas vue à l'Allianz Arena depuis longtemps, qui faisait un petit peu la tête, on va dire ça comme ça, c'est qu'ils avaient faim, ils étaient sur tous les ballons, Dortmund a été complètement dominé, on a eu un Thomas Müller auteur de 2 passes décisives, et encore une fois Lewandowski, 16 buts en 11 matchs de Bundesliga, il est en train de se rapprocher, il est sur une tendance largement supérieure à celle de Gerd Müller.
J'ai juste une inquiétude. C'est vrai que Robert, on l'attend souvent. On sait que c'est un grand buteur en Bundesliga. Il n'y a aucune situation. On sait qu'il va finir la saison entre 25, 30, voire plus. Là où on l'attend, c'est pour faire franchir un palier au Bayern depuis quelques années. J'ai peur que sa petite opération qui est apparemment prévue, le coupe dans son élan.
Je voulais avoir ton avis là-dessus parce que j'entends beaucoup de gens dire que Thomas Müller est fini. Bon, je dois avouer que c'est un de mes 3 joueurs préférés en activité, Thomas Müller.
J'adore ce joueur.
Et il a quand même que 30 ans. Et là, de le voir remis dans l'axe derrière l'attaquant, je me dis que c'est pas possible. Il va redevenir le Thomas Müller qu'on adore, quoi.
Alors, c'est très compliqué Thomas Müller parce que quand même, c'est vrai que par rapport à son gabarit, par rapport à sa façon de jouer extraordinaire, d'une intelligence hors norme, c'est un joueur qui, si tu veux, il rentre pas dans les cases. Hein. Donc, quand je l'ai vu débarquer à 20 ans,
Raum d'auteur.
Oui, mais il a plusieurs surnoms, mais
très caractéristique.
Ouais. C'est surtout aussi quelqu'un de très caractériel, c'est-à-dire que c'est un vrai bavarois, hein. C'est-à-dire si Niko Kovac est parti, si Carlo Ancelotti n'est plus là, il y a aussi, parce que Thomas Müller est là aussi, hein. C'est pas neutre, hein. Donc c'est dans une grande tradition bavaroise, c'est quelqu'un qui
est
forcément apprécié par tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que depuis l'Euro 2016, il était un peu en perte de vitesse, et là il était sur le banc, mais à chaque fois qu'il rentrait, il était performant, et beaucoup de personnes se disaient ok, soit Coutinho, soit Müller. Le problème, c'est quand Müller est là, il est meilleur que Coutinho, qui sait, on va le dire d'une façon très simple, hein, c'est un peu dégonflé quand même, hein. Et je passe sur ces tirs à 25-30 mètres qui font toujours briller les gardiens adverses, mais c'est toujours un peu compliqué. Thomas Müller, il a faim en ce moment, et ce qu'il fait, la passe qu'il fait extraordinaire pour le deuxième but de Lewandowski, c'est quand même assez extraordinaire la façon dont il est à la limite de hors-jeu systématique. Moi j'adore ce joueur, il est extraordinaire parce que c'est pas un buteur, parce que c'est un 9,5 mais pas la Djorkaeff, est un peu différent.
Non, c'est ses déplacements qui sont importants.
Ses déplacements, la façon dont il se positionne entre les lignes, etc. Il a eu une période très compliquée,
Il a que 30 ans.
Tiens, Polo, Benjamin Pavard qui enchaîne les matchs, hein, voilà, titulaire à chaque fois, et qui est décisif également. Pavard pour Lewandowski, il a quoi, 2 buts, 2 passes cette saison de Sega. Comment on l'analyse, que évidemment ça ne se dit pas qu'avec les stats.
Il est dans l'axe.
Latéral droit.
Il est derrière droit.
Bon, il n'y a pas que les stats qui comptent, évidemment. Je sais que c'était un peu sceptique. Voilà,
c'est pas facile
Benjamin Pavard à s'imposer au Bayern, sauf qu'il joue et il est décisif. Dis-moi.
Non, mais déjà, il joue parce que Lucas Hernandez est blessé et parce que Süle n'est pas là. L'autre paramètre qui est en place et que j'avais pas prévu à l'époque, c'est que le Bayern Munich, donc le directeur sportif Salih Mitic, n'a pas trouvé le numéro 6 que souhaitait Niko Kovac. Donc, c'est pour ça qu'il remonte Kimmich en position de numéro 6. Et donc, ça donne une place, évidemment, derrière à Pavard. Le problème, c'est qu'un, il est très, très mal noté par la presse allemande, donc ça, c'est quand même pas moi.
Systématiquement?
Ça dépend. Non, mais quand tu me gagnes 4-0 comme ça, on va pas te mettre 6. Oui. Quoi. C'est, en Allemagne, ça va de 1 à 6. Mais le comme à l'école. Et si tu veux, quand tu vois l'ensemble de ces matchs aujourd'hui, il est quand même plutôt en négatif par rapport au positif. Le problème, c'est que nous, on voit les buts et on dit, ah, c'est
France,
génial.
On voit les buts, c'est génial, il a le sourire. Voilà.
C'est une escroquerie, ce joueur.
Ouais, tu vas un peu loin quand même.
Non, mais je l'ai déjà dit.
Tu vas un peu loin, c'est parce qu'il est encore jeune.
Non, mais qu'il soit au Bayern Munich, c'est pas normal. Il a un bon manager. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais qu'il soit au Bayern Munich, c'est quand même incroyable. Mais bon, je préfère le laisser Polo parler, il est sur place.
On peut parler de Pavard, tout ce que vous voulez. Moi, je sais qu'c'est très négatif par rapport à l'ensemble de ses prestations, quand il perd des duels, quand il est à 1m50 de son adversaire direct, oui. Ou des choses comme ça, ou que lorsqu'il fait des fausses passes ou des fautes à 20-25 mètres de la surface. Mais il compense un petit peu par ses buts. Voilà, maintenant il a que 23 ans. Le problème, c'est qu'il est arrivé de Stuttgart où... voilà, l'équipe est descendue en seconde division, on l'a pas vu au-dessus du lot.
Il a été catastrophique même.
Ah, surtout Stuttgart était catastrophique dans l'ensemble. Et c'est d'ailleurs une surprise qu'il soit descendu. C'était une équipe qui était construite pour aller chercher l'Europa League au minimum, quoi. Et donc, il profite, il joue. Donc, on va pas se plaindre. Maintenant, ceux qui disent que je suis trop critique par rapport à Pavard, moi, je dis simplement que le Bayern Munich, c'est pas une association caritative, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
Vas-y.
Au bout d'un moment, quand tu es au Bayern, non mais je le dis d'une façon très simple, parce que les gens, il y a beaucoup de personnes. Mario Gomez s'est quasiment planté au Bayern Munich, il y a des grands joueurs, c'est le cimetière des Bavarois qui devaient réussir au Bayern, il y en a plein. Hein. Et moi, si tu veux, les gens, ils signent au Bayern et on a l'impression que c'est arrivé. Non, quand tu signes dans un club comme ça, le plus dur, c'est de faire ta place.
T'es peut-être dur avec Mario Gomez au Bayern quand même.
C'est un autre débat. Polo, je voulais parler avec toi également de la victoire du RB Leipzig. Ouais. 4 buts à 2 sur la pelouse de Hertha Berlin. D'abord, bon, doublé de Timo Werner. D'abord, pour les images d'avant-match qui ont fait le tour des réseaux, qu'on a vu ici. Je rappelle, ce sont les 30 ans de la chute du mur de Berlin. C'est aujourd'hui, hein. 9 novembre 89, 9 novembre 2019. Superbe avant-match. Un mur avait été, un faux mur, hein, en tout cas un mur en plastique, je crois, a été monté sur le terrain. C'était un spectacle fabuleux.
Alors, c'est évidemment un spectacle fabuleux. C'est très symptomatique de ce qui s'est passé il y a 30 ans, parce que, ne l'oublions pas, le Hertha Berlin est le club, on va dire, de l'ouest de l'Allemagne. Oui. Et puis Leipzig, qui était un club de l'est de l'Allemagne, et surtout une ville révolutionnaire. Et c'est là où c'est parti, en fait, la chute du communisme. C'est la fameuse église Saint-Nicolas, qui est très très belle d'ailleurs. Et donc, si tu veux, cette rencontre de hasard du calendrier, en fait, est assez impressionnante à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé pendant 30 ans. Il y a beaucoup de publications aujourd'hui, de livres sur depuis la destruction, enfin la fin du communisme en 89 et puis l'officialisation de la réunification en 90. Ce qui est intéressant, c'est que le match n'a pas été mal du tout, même si le Hertha est pas bien. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde dans le stade et que l'histoire est en train de se déconstruire, et c'est intéressant tout ce qu'on voit. Voilà. Mais si tu veux, je travaille depuis un an et demi sur cette thématique, et le dire en 10 secondes, c'est compliqué, quoi.
Oui, c'est compliqué, mais c'est passionnant. En tout cas, de superbes images.
Il y a quand même eu un pillage très clairement de l'Allemagne de l'Ouest, enfin le football de l'Ouest sur le football de l'Est, quoi.
Tu vas nous sortir un bouquin, Polo, là ?
Pardon ?
Tu vas nous sortir un bouquin ou quoi ? Tu nous annonces un bouquin en avant-première ?
Je ne réponds pas.
Ah, on a la réponse. Ah, super. Ah ouais, décidément, les drôles de dames. Hein.
Ça se tire la
Qu'est-ce qu'elles sont ah, mais qu'est-ce qu'elles sont productives, les drôles de dames.
Non, mais par rapport à Zidane, si tu veux, si un jour ça sort, ce serait plus.
Pas sûr que tu fasses Bruce Toussaint sur BFM.
Voilà, c'est ça. On est d'accord.
Mais bon, moi, ça m'intéressera. Je lirai. Je sais pas si Fred nous écoute avec plus d'intérêt que le Zidane. Mais j'ai commencé le Zidane, hein, il est très bien. De Fred Armel. Merci Polo.
Ciao Polo.
Excellente soirée à toi, bien sûr. Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak. Fred Armel arrive. Fred Armel, il est pas en Espagne, mais il a vu le match du Real. Vous savez où il est, Fred Armel?
Dans le Nord?
Non. Il est à Brive. Brive. Salon du Livre à Brive. Bien. Il est allé signer. Bravo. Fred Armel arrive dans un instant, à tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Jama.
Avec Ludovic Obraniak, avec Jonathan Macardy, l'after jusqu'à minuit, bien sûr. Après l'Allemagne, l'Espagne et avant l'Angleterre, bien sûr. Salut Fred Armel.
Hola chicos.
Comment salut, ça va? En direct salut. De Brive, monsieur.
Vous savez, les auditeurs de l'after, j'en ai rencontré
mais des dizaines et dizaines aujourd'hui, puisque j'ai l'honneur et la chance d'être invité par la Foire du Livre de Brive à dédicacer mon livre Zidane, qui est paru mercredi chez Flammarion. Et je vous assure, 90% des gens qui venaient au stand de Flammarion pour me voir me disaient « Hola chicos
ah, !»
Ça va l'after.
Mais oui, bien sûr.
Mais je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Tout le monde me parle de l'after. De l'after, de l'after, de l'after.
C'est une marque, on se
Ils me demandaient tous des secrets sur vous tous. Alors, bien entendu, je n'ai pas révélé.
Je dis que c'était secret. Je ne crois pas. T'as dû révéler.
Non, parce que j'ai quand même des dossiers sur tout le monde, donc je ne peux pas vous dire.
Oh, t'as mais, dit mais vraiment. T'as dit une saloperie sur Joe, quoi. Non.
Son meilleur ami de l'after, Jonathan
Vaccarelli. Non, mais je vous assure que notre émission est une institution. Ça, on le savait déjà. Vous avez eu la une de SoFoot. Mais ici, mais tout le monde me parle de l'after. C'est un truc de fou.
On va le dire.
Dans les dédicaces, ils me disaient tous, il me disait, écris-moi, hola chicos dans la dédicace. Voilà.
Très bon. Bah, si t'avais dit ciao, bonasera, bonsoir, ça aurait été étrange aussi. Mais bon.
Bah, ça aurait été un faux et usage de faux.
C'est ça, exactement. Rappelons également la SoFoot, un super travail de SoFoot à lire sur récits, les coulisses de l'after, les 14 ans de l'after, avec beaucoup de témoins dont tu fais partie, Fred, bien sûr. Voilà pour ton bouquin, Zidane, même si tu sais qu'on n'a pas le droit de faire la promo de ton bouquin dans l'émission dans laquelle tu
passes. Non, mais alors vous savez, vous pouvez le gagner parce qu'il y a une opération. Regardez le tweet.
Et ben tu sais quoi, Fred,
de RMC.
On aura un quiz en fin d'after. Tu peux t'engager à le faire gagner ton livre.
Ah mais bien sûr, parce que c'est un truc officiel, sérieux entre Flammarion et RMC.
Et allez, on
fait gagner mon livre aux auditeurs de RMC.
Appelez-nous 32-16, quiz spécial OMOL en fin d'after, avec un t-shirt de l'after à gagner, plus le bouquin, le livre Zidane signé Fred Hermel. Fred, L'Oréal a gagné aujourd'hui grâce notamment. Bon voilà, je te sers la soupe à chaque fois, souvent quoi, notamment un doublé de Benzema. L'Oréal,
le Pichichi.
Pichichi, meilleur buteur, doublé, Ramos également, et Valverde, le jeune Valverde, quelle semaine pour lui. 4-0 sur le terrain d'Eibar. Ludo.
Il est dans la forme de sa vie, carrément.
Benzema.
C'est incroyable, non?
Non, mais Karim Benzema, c'est le meilleur buteur du Real Madrid, c'est le meilleur passeur, c'est le joueur qui, aux statistiques, a participé. De toute la Liga, c'est le joueur le plus décisif de tous les joueurs de la Liga, plus que Messi. Si on calcule le nombre d'implications de Karim Benzema au niveau des buts et au niveau des passes décisives, c'est le joueur qui apporte le plus de points à son équipe. Et moi, j'aimerais replacer le match de. Parce que même si j'étais à Brive, j'ai regardé bien entendu le match du Real à Eibar. J'étais bien entendu mercredi soir à Bernabeu face à Galatasaray. Ces deux matchs, ce sont 10 buts marqués, 0 encaissés. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, les amis. Le Real a retrouvé la faim. A retrouvé la faim, F-A-I-M. A retrouvé l'envie. Ils se sont défoncés sur le terrain. Et mercredi soir, j'étais avec Zizou, bien entendu, puisque nous avions la chance de l'avoir en exclusivité pour la France sur RMC Sport. Et le message le plus important que m'avait transmis Zizou, c'est tu sais, Fred, on menait 4-0 à la mi-temps. Et après, les mecs, ils sont venus avec une faim de loup parce qu'ils voulaient faire un résultat encore plus fort.
Ah, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au débat qu'on avait tout à l'heure sur le PSG.
Il y a la fin, parce que le Real avait perdu la fin pendant plus d'une saison, vous le saviez.
Non mais Fred,
et là, ce soir.
Vas-y.
Oui, non, mais ce soir, enfin cet après-midi à Eibar, je vous rappelle simplement, les gens disent ouais, c'est Eibar, oui. L'année dernière, ils ont pris 3-0.
Non, t'as raison, Fred, là-dessus.
Fred, on a eu un débat tout à l'heure, oui. Assez animé sur le PSG. Le PSG qui, depuis les 3 semaines, gagne ou joue petitement. On dit, nous ici, tout le monde n'est pas d'accord en tout cas sur les réseaux, qu'une victoire avec des champions se construit dès le mois d'octobre, dès le mois de novembre. Toi qui as suivi le Real et qui as gagné 3 fois la Ligue des Champions, c'est 3 fois ces 4 dernières années.
Parce qu'on a dit, l'état d'esprit de vainqueur, petit à petit au cours de la
saison. Oui, c'est ça, ça se fait que maintenant, les gars.
Qu'une équipe.
Moi, je vais vous dire quelque chose, les amis.
Elle doit savoir en mettre 4 contre Eibar et elle doit savoir en mettre aussi
6. Ça commence à se bosser maintenant pour être vraiment à maturité.
Oui, mais je vais vous dire une chose qu'on dit en Espagne. Et c'est un collègue de Marca l'autre jour que justement j'ai interviewé pour la télé, pour RMC Sport 1, qui avait une réflexion que je trouvais magnifique en disant il me disait, les grands clubs se mettent en marche avec le changement d'heure.
Ouais, c'est bien trouvé ça.
Et regardez le Barça qui ce soir gagne 4-1. Regardez le Real qui gagne 4-0 à l'extérieur, alors que jusqu'ici, il perdait des points face à des petites équipes, que jusqu'ici, il perdait des matchs face à des petites équipes. Par exemple, le Real qui perdait à Majorque, le Barça qui perdait à Grenade. Mais là, vous savez, les équipes qui sont trop fortes début septembre ne tiennent pas le coup jusqu'au bout.
Il faut savoir monter
les équipes
en pression,
qui commencent à être bonnes au mois de novembre, c'est là où ça marche. Et je peux vous assurer que ce qui plaît le plus à Zidane, et j'insiste là-dessus parce que Zidane est quelqu'un qui connaît parfaitement le football et qui connaît son vestiaire, la fin de ses joueurs. Parce que Aïbar, le premier but, ils vont chercher le deuxième, ils vont chercher le troisième, ils vont chercher le quatrième. Et ils auraient pu gagner 4-5-0. Là, ils ont perdu 3-0 la saison dernière.
Ludo.
Alors, je vais pas vous dire que le Real va tout gagner cette saison, mais il y a de très nombreux matchs.
C'est la dynamique qui est intéressante.
Il y a plus d'un an que je ne voyais pas des joueurs qui avaient envie de gagner, qui avaient les crocs, qui avaient la haine. Ils ont ça. Et puis Karim Benzema, mais en fait, il faudrait faire une émission il faudrait faire une page Benzema chaque émission. Le mec, il a encore marqué deux buts aujourd'hui après avoir marqué deux buts et avoir rejoint Alfredo Di Stéfano.
157e but.
Ouais, mais c'est un truc. Et là, aujourd'hui, il a rejoint Puskas. Ce mec, vous savez, celui qu'un certain Mourinho traitait de chat, est en train de battre les records des plus grandes légendes de l'histoire du Real Madrid. Il s'appelle Karim Benzema, il est français.
Ouais, Ludo.
Moi, juste Fred, j'ai une petite question. Je vois le Real. Comment dire, mettre des corrections depuis maintenant 2-3 semaines à tout le monde.
Oui.
Ils enquillent les buts et je vois pas Eden Hazard.
Il a obtenu le péno. Il a obtenu le péno.
Alors, paradoxalement, j'ai l'impression qu'il est quand même bon. Mais
aujourd'hui, Ludo, aujourd'hui, c'est le meilleur match d'Hazard depuis qu'il est au Real Madrid. Moi, j'étais au stade, bien sûr, contre Galatasaray.
Il a dit qu'il était impressionnant, mais bon, voilà.
À la première période, il n'a pas encore totalement le fond physique pour être excellent pendant 90 minutes.
D'accord.
Mais aujourd'hui, pendant 50-55 minutes, ça a été vraiment Eden Hazard. Franchement, l'autre jour, au stade, parce qu'il y a des matchs qu'on voit à la télé, il y a des matchs qu'on voit au stade. Et moi, quand je les vois au stade, j'aime bien regarder les joueurs qui nous importent plus. Karim Benzema, Raphaël Varane, et puis là, en l'occurrence, Eden Hazard, qui en plus est un mec très sympa, vous le savez, autant que moi. Eden Hazard est en train de prendre sa forme. Et l'autre jour, il y a une quinzaine de jours, j'étais en direct, bien entendu, sur le plateau d'RMC Sport, et on avait sorti une statistique. Hazard est toujours mauvais dans ses débuts de saison.
C'est
à partir de. Mais à Chelsea, c'était pareil, à Lille, c'était pareil. C'est quelqu'un.
C'est pareil.
Bah voilà. Et donc, il y avait en plus ici le problème de l'intégration au Real Madrid qui n'est pas facile, parce que peut-être qu'il n'avait pas pris conscience qu'il était dans le plus grand club du monde et qu'on ne pouvait pas arriver avec 4-5 kilos de trop, qu'il aurait fallu un petit peu de plus travailler. Mais là, physiquement, il est mieux. Et là, il commence surtout dans sa tête à se libérer. Il tente des choses techniques qu'il n'osait pas il y a encore quelques semaines. Mais sincèrement, je voudrais pas faire mon pro Real de base. Mais cette équipe, l'équipe que j'ai vue mercredi soir, l'équipe que j'ai vue ce soir, c'est l'équipe des trois victoires en Ligue des Champions. Celle qui ne lâche rien.
Ok, Fred. Merci, Fred.
Salut, Fred.
Merci, les amis. J'étais très ravi de vous parler. Je vous assure que ça va se terminer tard parce qu'il y a des gens merveilleux ici et il y a partout des auditeurs de l'After. Donc je suis un petit peu le commercial de l'After auprès des supporters.
Tu leur fais la bise. Merci Fred, excellente soirée à toi.
Adios, Ticos.
Ciao. J'accueille maintenant Julien Laurent. Salut Julien.
Salut Nico, salut à tous.
T'es en soirée toi.
Je suis pas en soirée, mais j'ai fait un spectacle ce soir à Belfast. Et malheureusement, j'ai pas pu rentrer à l'hôtel à temps, donc voilà.
Attends, t'étais sur scène ou
t'as un peu de monde derrière moi.
T'étais spectateur ou t'es allé voir un spectacle?
J'étais sur scène, effectivement. J'étais sur scène. J'ai fait un genre de podcast en direct sur scène avec des spectateurs, 500 personnes. C'était plutôt sympa.
Excellent. Okay.
Raconter quelques histoires marrantes, quoi, tu vois.
Quel talent. Et t'as été aussi bon que dans le match de l'After ou pas?
J'ai été pas mal.
Alors, parlons d'abord de Unai Emery et d'Arsenal qui perd ce soir sur la pelouse de Leicester 2-0. Est-ce que ça craint, je vais directement vers le sujet, est-ce que ça craint pour Emery, Julien?
Alors pour l'instant, on continue de me dire qu'il n'est pas menacé, qu'il restera encore sur le banc, qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer, que la situation peut s'améliorer, que le jeu peut s'améliorer, qu'il y a eu des circonstances un petit peu atténuantes, comme le problème avec Xhaka, comme le problème avec Ozil, et que le club a encore confiance en lui. Néanmoins, la défaite d'aujourd'hui, après déjà les quatre derniers matchs nuls, n'oublions pas qu'ils avaient fait match nul contre Victoria Guimarães, qu'ils avaient fait match nul contre Crystal Palace après avoir mené 2-0 à domicile. Tous ces matchs-là aussi font que la pression est quand même en train de s'intensifier un peu sur lui. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas encore le feu vraiment à la maison Arsenal. Mais c'est vrai que les résultats sont assez inquiétants. Et surtout, l'écart qui est en train de se créer entre Arsenal et le 3e et le 4e et la Ligue des Champions, qui est impératif pour le club pour des raisons financières déjà, autant que le standing, est en train de s'échapper un petit peu très tôt dans la saison.
Avec un Pépé encore remplaçant aujourd'hui pour Arsenal. Chelsea, 2e, 6e victoire consécutive pour Chelsea. Tout va bien. Encore Tammy Abraham qui a marqué son 10e but cette saison.
Effectivement, tu as raison. Il y avait eu cette frayeur contre l'Ajax en Ligue des Champions mardi soir, où même s'ils sont revenus au score à 11 contre 9, à 11 contre 11, ils avaient quand même été largement dominés par les Hollandais. Et c'est vrai qu'il fallait rebondir, même contre Crystal Palace, même à domicile, ils ont fait une performance sérieuse. C'était pas exceptionnel, mais c'était ce qu'il fallait pour gagner. On a encore vu un but de Pulisic qui est vraiment en train de monter en puissance. Oui. On parlait tout à l'heure d'Hazard avec Fredo. C'est son remplaçant et lui, il commence vraiment à montrer des choses, pied droit, pied gauche, dans l'attitude, dans l'énergie aussi qu'il transmet. Et techniquement, à un moment, il rate une occasion en premier mi-temps, il met un crochet exceptionnel du pied gauche dans la surface. Et c'est vrai que l'apport de Pulisic en ce moment est vraiment très intéressant pour Chelsea. Ils grandissent, ils gagnent en maturité, ils gagnent en confiance, ils ont une dynamique super positive et ça va vraiment être intéressant de voir jusqu'où ils peuvent aller cette saison.
Et demain, 17h30, le choc, Liverpool City, Julien. Est-ce que je pose la question, si Liverpool gagne, est-ce que c'est quasiment plié? Parce que je regarde, City désormais 25 points, Liverpool en cas de victoire 34 points, ça fera 9 points d'écart, je vais trop vite. Julien.
Alors c'est peut-être un tout petit peu rapide, même si les Anglais. Alors,
on t'écoute Julien.
Donc les Anglais disent tu peux pas gagner le championnat au mois de novembre, mais tu. Excuse-moi, je te disais, tu peux pas gagner le championnat au mois de novembre, en revanche, tu peux peut-être le perdre. Et tu peux comprendre la nuance. Les Anglais disent que c'est aujourd'hui, ce Liverpool City est le plus grand match en Europe parce que c'est les deux meilleures équipes européennes. Et je pense que, même s'ils sont un petit peu chauvins, je pense qu'ils ont raison. Et c'est vrai que le match de demain, tu te demandes comment chaque entraîneur va l'approcher, parce qu'au final, un match nul, finalement, Liverpool garderait son avance de 6 points. Manchester City resterait à 6 points, ce qui est loin d'être rédhibitoire pour le titre de champion, par exemple. Alors que si tu commences à prendre des risques et que tu t'inclines, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes qu'en cas de match nul. Rappelez-vous la saison dernière, par exemple. À Anfield, déjà, on avait vu un bon vieux 0-0 où clairement, les consignes des deux coachs, c'était on va pas prendre trop de risques, on va se calmer. Si on fait match nul, c'est une mauvaise opération pour personne et on sera tous très contents. J'ai un peu peur que demain soit pareil. En revanche, si c'est pas pareil, si les deux entraîneurs disent il faut absolument y aller, on va y aller à fond, là je pense qu'on peut avoir un match assez exceptionnel en termes d'intensité, en termes de talent, même si la défense de City avec ses absences, maintenant même si Ederson dans les buts est lui aussi absent, forcément on aimerait que les deux équipes soient à 100% avec leurs meilleurs joueurs, mais c'est vrai que s'il n'y a pas ce match nul un petit peu conservateur, je pense qu'on peut assister à un match assez super.
Merci beaucoup Julien.
Ciao Julien.
Excellente soirée à toi. Et merci les gars. Parle de l'after à Belfast, surtout. Excellente soirée à toi.
Bien sûr. Je fais la promo.
Messieurs, l'heure est arrivée du quiz.
Allez.
Avant notre Liverpool City demain, OMOL. Nous avons deux auditeurs, deux au 32-16 qui ont appelé pour gagner, je le rappelle, le livre de Zidane, signé Fred Hermel, et un t-shirt de l'after. Salut Jamal.
Hola chicos.
Salut, supporter Jamal. Lyonnais.
Oui, c'est ça, ouais.
Tu choisis qui?
Ludo
avec Jamal. Salut Arthur, désolé, t'as appelé après. Avec Jonathan Macardy. Salut Arthur.
Salut.
Supporter marseillais. On est une team Marseille.
Ouais. Et moi, bien sûr.
Et Arthur. Messieurs, c'est parti. On a deux minutes. Un livre à gagner et un t-shirt de l'after. Première question, qui est le meilleur buteur des confrontations OM-OL?
Nyang?
Non.
C'est dans l'histoire récente ou pas?
Lacombe?
Non. Ludo, tente un coup. Jamal, Arthur.
Dinalo. Dinalo. Laurie Dinalo. Benzema.
Non.
Lacazette.
C'est un Yougoslave. Enfin, ex-Yougoslave.
Stojkovic.
Bocic.
Non, pas Bocic. Comment t'as dit?
Bocic.
Bocic. Non. Stojkovic.
Non, messieurs.
À Lyonnais ou à Marseille?
44 buts. En une seule saison avec Marseille.
Scoblar,
putain, je suis con. Joseph Scoblar. Débile. Un point pour l'équipe Arthur Jonathan Macardy. Débile. Deuxième question. Le 8 novembre 2009, l'OL et l'OM ont livré ce qui est l'un des plus grands matchs de la Ligue 1.
Ah ouais.
Score final, 5 partout. 24. Qui était, attendez messieurs, qui était le premier buteur de ce match?
Benoît Chirou.
Non.
Non. André Ayou. Maman Nyang. Nyang, Nyang. Licha.
Je joue en Italie. Pjanic, qui a dit Pjanic?
Oui.
Jamal.
Arthur.
Arthur.
Bien Arthur, bien.
2-0
Arthur.
Pour la team OM, Jonathan, Arthur, Jamal, Ludo, 0.
Bien Arthur.
Ouais.
Qui était le coach de Marseille à l'époque? Vite.
Guéret. Deschamps, je suis con, putain.
Deschamps.
3-0.
Donc c'est un questionnaire qui est fait pour Jonathan, quoi. En gros, c'est un questionnaire marseillais.
Qui a dit le manque de respect du coach de l'OM envers le corps arbitral est démoniaque?
Olas.
Il va vite, 4-0 pour l'équipe Jonathan.
Bien joué, Jonathan.
Quel attaquant lyonnais a inscrit un doublé lors du dernier OMOL en mai 2019?
Cornet.
Qui a dit ça?
Arthur.
Jamal, supporter lyonnais, il faut réagir.
Il est rapide. Hein.
Qui a joué à Lorient, OM, OL et Rennes? Lorient. Lorient, OM, OL et Rennes.
Ah, le Morel, Morel.
Jérémy Morel. 5-0.
Bravo, Arthur. La Manita, Arthur. Bravo.
T'as gagné sur une magnifique Manita avec Jonathan.
Un questionnaire orienté pour Jonathan McCarthy.
Je préfère perdre ce soir et gagner demain.
T'as raison, Jamal.
Et Arthur, bon match demain, mon pote.
Arthur, un t-shirt de l'After pour toi et également le livre de Fred Hermel, Zidane. Excellent soir à vous, messieurs.
Ciao, Arthur.
Merci beaucoup.
Bon dimanche, messieurs.
Ciao, Jamal aussi.
Merci, Jonathan.
Merci, Nico.
Merci, Ludo.
Salut, les gars.
Merci parce que je trouve que c'était bien ce soir alors que les matchs n'étaient pas.
Et puis on est heureux.
Bravo, Nico. Bravo, Arthur.
On salive d'avance pour demain aussi. Hein.
115 000 vues, la vie tranchée de Ludo Bragnac sur Twitter. Je sais que c'est pas une gloire pour lui, mais quand même, on bat des records, quasiment des records de l'After.
Rien n'a battre.
Allez, à demain, bye.
Ciao, ciao.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.
At the Bank of Antandek, mortgages are on the menu.
I was in the chippy last night, and it hit me.
Go on.
We should give all our new mortgage customers £1,000. Of spuds.
Potatoes.
Yeah, jackets, roasties, dolphin waz. I mean, what's not to love?
Hey, yeah, we could call it
Mashback. Genius.
Meanwhile, at Santander, they're giving their customers £1,000 cash back on selected first-time buyer mortgages. See what's possible at Santander.
Lending subject to status and criteria. Cash back given on completion and repayable if mortgage closed within 2 years. Offer can be withdrawn. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.